Tempo, épisode 33. C'est parti. T'arrêtes un peu.
Non mais j'ai rien dit.
À chacune de mes intros, il rigole. Je commence à mal le prendre.
Franchement, c'est les meilleurs lancements sur YouTube. J'ai regardé YouTube.
C'est vrai?
Je connais YouTube, c'est les meilleurs lancements.
Eh ben écoute.
Change rien. Je
demande solennellement, Daz, ouais, à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous regardent aussi sur YouTube, de donner leur avis. Est-ce que je suis ridicule avec ce lancement?
Pas du tout.
Est-ce qu'un DLT sans ce lancement, c'est un DLT?
Mais ben non, voilà, c'est ça le truc. Ça fait partie de l'ADN de l'émission. Donc
je suis bien d'accord.
Il faut le garder, je trouve ça magnifique.
Comment ça va, Daz?
Ça va toujours bien.
Il fait beau,
il fait chaud. Et voilà, je sais plus ce que j'avais dit parce que, évidemment, pour les gens, un petit peu de coulisses, on a déjà fait cette intro, elle a planté parce que je rentrais dans le cadre. Non, moi, tout va bien.
Il a toujours du mal à rester dans le cadre, Daz.
Ouais,
il penche à droite en plus.
Je penche méchamment à droite, c'est dégueulasse. Moi-même, je me hais.
Bah, écoute, on fait avec ce que t'es, Daz.
En parlant de droite,
ouais,
au sens cardinal, donc en parlant d'Est,
ouais,
on reçoit aujourd'hui un artiste de l'Est parisien.
Magnifique. C'est vrai, de l'Est parisien.
C'est incroyable.
T'es impressionné par notre maîtrise un peu de l'animation?
Ah ouais,
gros métier.
Ouais, oui. Un artiste tout droit venu du 77, big up au 77.
C'est exotique un peu l'artiste, hein, le 77 c'est lointain. Hein.
Ouais.
Pour les parisiens, je pense que c'est la chingue.
Pour eux c'est l'Australie, tu vois.
Ouais, c'est ça.
C'est Robin Note, on est avec nous. Salut Robin.
Salut les gars.
Merci d'être dans l'émission.
Merci de m'avoir invité.
Bah écoute, c'est un grand plaisir.
Ça me fait d'autant plus plaisir que c'est quand même un podcast que j'écoute régulièrement.
Et c'est vrai.
En allant courir.
On accompagne.
Exactement. J'ai quand même, j'en ai écouté une bonne dizaine, quoi.
Okay.
Voilà.
J'étais même pas dedans sur la
dizaine. Ouais, exactement. C'était encore chrono.
C'était chrono.
Ouais.
Qu'on big up.
Big up. Absolument. Les gars, il faut que je te présente Robin quand même, parce que certes tu es une superstar mondiale, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu disais 1m85, c'est ça?
1m85.
Très grand.
Ah, c'est grand.
Assez grand.
Assez grand, effectivement.
Ouais,
grand. Non, Robin, t'es musicien, tu es surtout pianiste, claviériste, à la fois tu as une carrière en tant qu'artiste solo, tu es initialement formé au jazz, en parallèle tu accompagnes aussi beaucoup d'artistes, notamment en tournée. On pourrait citer par exemple Ben Mazuet ces derniers temps. Ça fait même plusieurs années.
Ça fait 8 ans que j'accompagne Ben Mazuet.
Et notamment sur la dernière tournée Paradis.
Bah, les trois dernières partout. Tournées. Depuis 2014, c'est moi qui est sur scène avec lui.
Ouais. Ok. Donc t'es au clavier. Tu es aussi d'ailleurs directeur musical de la tournée de Ben Mazuet. Tu l'as fait avec d'autres artistes. On pourrait citer pêle-mêle. T'as accompagné Corneille, Kenza Farah, toute cette vague un peu variété R&B, etc.
Ouais.
Ce qui est super intéressant, et c'est pour ça qu'on voulait te recevoir avec ton profil, c'est que en parallèle de ce travail d'accompagnateur dans la variété, formé jazz, comme je disais, tu as un groupe qui s'appelle Panam Panic, t'as eu aussi un groupe avant qui s'appelait Wise, où là, on retrouve complètement le côté jazz, groove, etc. Mm-hmm. Il y a une certaine... c'est étonnant presque, je dirais, de voir que tu peux mener une carrière si différente, entre guillemets, évoluer dans des univers musicaux, dans des styles musicaux si différents, et je pense que ça va être assez riche dans la discussion, justement. D'autant plus que, attends, il s'arrête pas à ça, Robin, tu enseignes aussi au conservatoire de Chelles, au département de jazz, tu coordonnes même le département jazz musique actuelle. Un homme complet, et l'idée, c'est de discuter avec toi, si tu le veux bien, bah justement cette vie de musicien, du fait de multiplier les activités, de trouver la cohérence dans tout ça, de se demander aussi si parfois il y a des raisons économiques derrière, est-ce que c'est avant tout le désir et l'envie de faire des choses différentes qui t'amène à tout ça ou pas, et voilà, et parler de la vie de tournée aussi par exemple, bref, on peut avoir plein de discussions très riches.
Carrément, avec grand plaisir. Alors, tu n'as pas dit que j'ai fait aussi pas mal de scuds de musique électronique.
Absolument. Mais j'ai... ça, on y reviendra petit à petit, t'inquiète pas.
J'ai fait des musiques de films, enfin, j'ai fait beaucoup de trucs.
Je sais aussi que t'es passé par le DJing, tu scratchais, etc.
J'ai lu ta bio,
rassure-toi. Toi.
Non, mais tu sais, c'était pour pas résumer à juste jazz et variété française, tu vois, il y a plein d'autres trucs. Ça va peut-être te donner des éléments de réponse par rapport à ce que
c'est
tu
vrai.
Disais tout à l'heure, qui toi tu séparais un peu les deux. Pour moi, c'est la même chose, mais je veux pas empiéter.
Moi, c'est pour lancer justement la discussion.
Programme.
Après, quel avis j'ai, peu importe, j'ai envie de dire. Non, mais c'est, je trouve ça très intéressant en fait, parce que ça peut poser question justement, parce que parfois il y a des chapelles musicales, mine de rien.
Oh.
Et j'aime bien le fait que tu illustres ce fait qu'en fait on peut trouver du lien entre tout ça. Quoi.
Voilà, carrément, ouais.
Ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer avec une première partie. On va parler justement de cet aspect un peu double, artiste, solo, perso, et en parallèle accompagnateur, accompagné d'autres artistes, d'autres musiciens. Peut-être que derrière, on parlera un peu de la vie de tournée, parce que ça, c'est passionnant, notamment sur Paradis, là, le dernier album de Ben Mazuet, la tournée, elle est énorme. Vous êtes passé dans énormément de villes. Ça, je sais pas combien de temps elle a duré, cette tournée.
Elle a commencé il y a 15 mois. En fait, elle aurait dû commencer avant, mais à cause du Covid, il y a eu beaucoup de reports.
Ouais.
Ce qui fait que ça a été extrêmement dense. On a fait 120 dates en 15 mois, quoi. Ce qui est vraiment énorme. Et ce qui a été extrêmement fatigant, mais ça a été un bonheur sans nom. Ouais. Mais ça a été aussi fatigant parce que j'ai continué à enseigner au conservatoire en parallèle. Ouais. Et donc, des fois, j'avais des trucs, genre je jouais mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, à chaque fois dans des villes différentes. Hein. Ouais. J'arrivais le lundi matin à Paris et lundi après-midi, j'étais au conservatoire en train d'enseigner jusqu'à 22h, tu vois. Ouais. Pareil le mardi, pareil le mercredi, et je repartais le jeudi d'après. Donc, en fait, j'ai eu des énormes salves de boulot où j'avais pas du tout de jour off.
Bah,
du coup, ça a été vraiment fatigant, mais c'était incroyable.
Deuxième partie, on parlera de cette vie de tournée. Et puis, on terminera peut-être en parlant un peu d'enseignement quand même. Et comment justement tu le lis aussi à toutes ces activités. Est-ce que ça fait sens, etc. Enfin, encore une fois, cette idée d'Az, tu vois, c'est vraiment de parler du fait qu'un musicien peut avoir plein de facettes différentes. Et comment un peu tout ça se mêle et quel sens on peut, avec l'exemple d'un musicien, de Robin Nott en l'occurrence, comment ça peut faire sens tout ça, quoi.
Mais allez, allons-y.
On y va, on se lance. Très bien.
Ouais.
Robin, tu commences le piano à 8 ans. T'as peur un peu comme ça quand je vais commencer? Tout va bien?
Ouais, tout va bien. Ouais, super.
Tu commences le piano à 8 ans. Assez vite, tu t'orientes vers le jazz. Ta première expérience de groupe. Ouais, non? T'es pas... Tu commences par du piano classique. Hein,
ouais, j'ai fait 5 ans de classique. Ouais. Et vers les 13 ans, un truc comme ça, j'ai commencé le piano jazz. Ouais. Ouais.
Derrière, tes premières expériences de groupe, si j'ai bien compris, c'est plutôt en tant que DJ?
Alors.
Ouais.
En fait, j'ai fait du piano de 8 à 13 ans, mais parallèlement, j'ai commencé à faire des platines très tôt, genre à, je sais pas, peut-être 11, 12 ans, un truc comme ça, maximum. J'ai des parents qui ont fait de la musique et du coup, qui comprennent cette passion pour la musique, et mes parents m'ont toujours soutenu et, en fait, j'ai rencontré des mecs qui étaient DJ dans mon patelin. Genre, ils étaient DJ ambiance disco mobile, tu vois. ils
animaient... Genre autocollant pionnière, quoi.
Voilà, exactement. Ils animaient des soirées dans les villes du coin. Et ils faisaient eux-mêmes leur propre rack de lumière et tout, machin. Et ils m'ont pris un peu sous l'oreille. Ils me faisaient essayer des trucs. Et très rapidement, je suis rentré chez moi en disant « Ouais, je veux des platines. Ouais. » Et puis, j'écoutais du rap aussi à cette époque-là. Et donc, ils m'ont offert des platines très tôt. Et en fait, du coup, mon premier instrument, c'était les platines. Et donc, j'ai commencé à jouer dans un groupe de rap en tant que DJ avant même de faire du jazz. Donc, je pense que je devais encore faire du piano classique à cet âge-là. Et puis après, j'ai commencé le jazz à 13-14 ans, un truc comme ça. Donc voilà, tout ça, ça s'entremêlait déjà, finalement.
Ouais, c'est marrant parce qu'on retrouve effectivement ce truc d'être attiré par différents univers musicaux dès le plus jeune âge.
Ah bah, hey,
et tout se passe à ce moment-là.
En plus, en rentrant par le rap directement, moi je vais arrêter d'être prosélyte sur le hip-hop. Mais
c'est clairement ma première claque musicale, c'est le rap. Ouais. Quoi,
tu vois. Et ça a même été une porte d'entrée vers le jazz ou tu le mêlais pas du tout au début?
Non, ça n'a pas été une porte d'entrée, non. Je pense que c'est vraiment des trucs que j'ai découvert de manière complètement différente. Le rap, c'est parce que j'écoutais Radio Nova et que je suis tombé sur une émission de Dynasty à l'époque.
Ah ouais.
Et donc j'ai fait genre, mais qu'est-ce que c'est ce truc?
Ouais. Attention, on commence à avoir une idée de ton âge.
C'est peut-être drôle, faut pas le dire, mais Dynasty, Radio Nova, moi je m'en rappelle aussi.
Et du coup, voilà, c'est alors que le jazz, j'étais à un festival de jazz dans mon patelin. De 3000 habitants à l'époque, tu vois, et j'ai entendu du jazz, je fais c'est trop bien, j'ai envie de faire ça, quoi.
Tu passes ton bac et là tu décides de faire le conservatoire en jazz.
Ouais.
Ça se passe pas très bien, ça te convient pas?
Ça se passe pas bien du tout, en fait je fais 2 ans et j'ai eu un prof avec lequel ça fonctionnait pas du tout et du coup j'ai décidé de quitter le conservatoire. J'étais en 3e cycle, pour ceux qui savent ce que c'est. Pour ceux qui savent pas, bah en gros l'enseignement en conservatoire, c'est comme un peu l'école maintenant. L'école fait ça, c'est en cycle. Ouais. Et du coup, c'est genre, c'est une période pendant laquelle tu dois acquérir un certain nombre de savoir-faire. Mm-hmm. Et tu passes une sorte d'évaluation à la fin de ces 4-5 ans pour voir si t'as acquis vraiment ce qu'on attend de toi au bout de ce que t'es censé savoir-faire au bout de 4-5 ans, quoi. Mm-hmm. Et toi, donc, il y a 3 cycles.
C'était pas le cas alors
Si, moi je suis rentré au conservatoire directement au 3e cycle.
Ouais.
Donc j'ai envie de dire c'est le dernier cycle au mode amateur et puis après t'as le cycle d'orientation professionnelle qui vient après. Sauf que j'ai fait 2 ans au 3e cycle et puis après j'ai dit bon les gars je me barre.
Parce que vraiment t'avais un prof avec lequel ça accrochait pas, quoi.
Ouais, mais ça accrochait pas du tout. C'est-à-dire que Pour te dire, quand j'arrivais dans la ville, je me mettais à trembler au volant. La nuit, la veille de mes cours, je faisais des cauchemars. J'étais pas bien.
Ah ouais,
et tout. Ouais,
c'est traumatisant.
Je l'ai mal vécu. Ouais. Donc.
Mais c'était quoi? C'était un prof qui était peut-être trop classique dans son approche ou?
Non, c'était un prof avec lequel je essayais de pas trop.
C'était humainement.
Pas trop en dire du mal parce que c'est un collègue aujourd'hui. mais voilà, disons que ça fonctionnait pas. En tout cas, pas avec moi. Et qu'il s'adaptait pas vraiment, je pense, à mes besoins. En fait, en gros, de ce que j'ai cru comprendre, il faisait un peu le même programme à tous les élèves de troisième cycle, sauf que t'as pas deux pianistes qui jouent pareil, qui ont les mêmes influences, qui ont les mêmes besoins. Du coup, tout le travail de pédagogue, c'est vraiment de s'adapter au niveau de tes élèves, en fait, de ce qu'ils ont besoin de travailler, de leurs influences, tu vois, de... Bon, bref, je vais peut-être empiéter sur ce que tu voulais parler
après.
Oui,
mais on en parlera de l'enseignement plus en détail après, mais c'est intéressant quand même. En tout cas.
En gros, là, ça fonctionnait pas, et du coup, j'ai préféré partir, quoi. Ouais. Voilà, pour faire
mais
quoi.
Du coup, ce qui est bon à retenir quand même, c'est que ça t'a pas dégoûté de la musique, parce que ça aurait pu avoir cet effet-là, en plus de tomber sur un prof.
Non, mais moi, j'étais un. La musique, c'était ma vie, en fait. Si tu veux, j'ai fait un stage de jazz quand j'avais 14-15 ans. Mm-hmm. Et j'ai rencontré un mec qui s'appelle Julien Dubois, qui est toujours un ami aujourd'hui, qui est d'ailleurs une référence pour moi de l'enseignement du jazz et des musiques actuelles. Et ce mec-là, il avait 15 ans aussi, il savait qu'il voulait déjà devenir saxophoniste professionnel. Et du coup, il m'a transmis ce truc. En fait, avant cette rencontre, j'avais jamais, ne serait-ce qu'imaginé, le fait de pouvoir faire de la musique toute ma vie, tu vois. Mm. Il m'a transmis ce truc. Et Julien, il a un truc incroyable que tous ses élèves pourront, dont tous ses élèves pourront attester, c'est que quand tu le rencontres, il te transmet un truc de rien n'est impossible. Ouais. Et quand je suis sorti de là, je me suis dit, mais ouais, vas-y, moi j'ai envie de faire ça toute ma vie. Et surtout, ce stage de jazz a vraiment tout changé, parce que quand tu vas au conservatoire, tu fais ton petit cours une demi-heure par semaine, une heure par semaine, t'as ton atelier, mais après tu rentres chez toi et t'as pas, c'est tout, enfin, tu passes à une autre vie. Quand t'es dans un stage de musique, tu passes toute ta journée à faire de la musique, entouré avec des gens, à parler musique, à manger musique, à dormir musique. Du coup, t'es vraiment baigné là-dedans et t'as une petite idée de ce que pourrait être ta vie. Et là, je me suis dit, mais moi, j'ai envie que ce soit ça, ma vie.
C'est marrant parce que ce témoignage, je l'ai déjà entendu. De gens qui, ados, font un stage de partage comme ça, musical, peu importe le style, jazz, rock, etc. Et qui, en fait, se retrouvent marqués par ce truc et ils se disent, en fait, ça c'est une vraie passion.
Mais c'est
ça,
monstrueux. C'est un truc, ouais, tu vois. Moi, je l'ai testé même sur des élèves. C'est-à-dire que des fois, j'ai des élèves que je vois qui sortent un peu du lot et tout. Je leur dis, ouais, vas-y, va faire un stage de jazz. Et je me rappelle d'un élève qui avait des énormes aptitudes, mais il bossait pas plus que ça parce qu'il était dans un groupe où on le motivait pas plus que ça, tu vois, il faisait 3 morceaux par an. Mmh. Il s'est retrouvé dans un stage de jazz où il a dû faire 3 morceaux en une semaine, entouré de gamins qui carburaient. Du coup, il s'est sorti les doigts, il a bossé comme un ouf et ça l'a surboosté. Et il est arrivé à la rentrée, genre, il s'est transfiguré, quoi.
On reparlera de l'enseignement peut-être après, si vous voulez, les gars. Parce que je trouvais que le premier point intéressant pour aussi apprendre à mieux te connaître, c'était ce côté à la fois artiste et le fait d'accompagner d'autres gens. Est-ce que quand tu quittes le conservatoire, justement, où tu te dis, je vais me faire par moi-même, en gros, t'as déjà en tête de te dire je vais multiplier les activités, est-ce que ton but c'est avant tout d'être artiste solo et c'est un peu le hasard qui te mène à faire d'autres choses en parallèle?
Alors artiste solo c'est une étiquette qui me correspond pas vraiment.
Oui, tu es accompagné à chaque fois par des groupes, enfin ce que je veux dire, ton projet musical personnel.
Oui, j'ai toujours eu des projets à moi. J'ai eu un groupe, en fait j'ai fait mon premier groupe avec ce fameux Julien Dubois. Quand on avait 15 ans, on a fait notre premier groupe ensemble. Donc, mes premières compos, je les ai faites à 15 ans, tu vois. J'ai commencé assez tôt. Et depuis, j'ai jamais cessé de diriger des groupes. J'ai toujours eu un groupe à moi depuis l'âge de 15 ans. Attends, répète-moi ta question.
Est-ce que tu avais en tête déjà à ce moment-là?
Est-ce que tu avais le projet, ouais?
Alors, en fait, j'ai jamais eu de projet, moi.
Ouais. Okay.
Déjà, dans la vie, j'ai du mal à avoir des projets.
Hormis vivre de la musique, ça, j'imagine que c'était le...
C'était ça. Ouais. C'était même pas vivre de la musique. Pour moi, j'avais même pas l'aspect financier en tête. Pour moi, j'avais juste envie de faire de la musique toute ma vie, quoi, tu vois. Et c'est le seul moyen, c'était de décider d'en faire mon métier. Et donc, pendant longtemps, je me suis pas posé la question de savoir comment j'allais manger. Je voulais juste faire de la musique et du coup je suis resté chez mes parents jusqu'à 26 ans.
Ok.
Parce que j'ai mis du temps assez long à s'installer et puis mais j'ai commencé à enseigner assez tôt aussi par contre à 19 ans. Mais moi tout ce que je voulais c'était faire ma passion quoi.
Vivre de la musique, ok. Faire de la musique, ok. Mais t'avais des voix qui s'ouvraient devant toi en te disant ok, faudrait peut-être que je parte comme ça ou que je fasse ceci ou cela. Non, c'est vraiment
non. Moi,
c'est au gré des rencontres et
exactement. Ouais. Moi, en fait, tout ce que je voulais, c'était faire du piano jazz toute ma vie, quoi. C'était vraiment mon truc. Alors, j'ai toujours écouté d'autres choses. Comme tu sais, je viens du rap. Et après le rap, j'ai fait des séjours linguistiques en Angleterre où j'ai découvert la jungle à l'époque et drum and bass et tout ce type de musique qui n'existait pas encore en France à l'époque.
Toute ta période de musique électronique derrière.
Exactement. Ouais. La house aussi. Enfin, bon, voilà, j'ai écouté pas mal de choses différentes. Et du coup, j'avais pas de projet autre que... Enfin, moi, je suis un peu un mec obsessionnel, tu vois. J'ai des lubies. À un moment, je vais me buter à telle musique, après à telle musique, tu vois. À un moment, j'ai décidé de me buter au jazz tout bêtement. Et donc, moi, mon but, c'était de devenir un bon musicien. C'est déjà le premier objectif parce qu'on se rend pas compte, mais devenir un bon musicien, c'est une tannée, en fait. Enfin,
qu'est-ce qu'un bon musicien, d'ailleurs?
Bah, en tout cas, avoir un certain nombre de compétences musicales, de techniques musicales, être un musicien de qualité, ça demande énormément de travail. C'est-à-dire que moi, encore à l'heure actuelle, je travaille encore en moyenne 3 à 5 heures de piano par jour. Et ça, je fais ça depuis perpète. Pendant 2 ans de ma vie, j'ai fait 8 heures de piano par jour. 4 heures matin, 4 heures après-midi.
À l'époque, à aucun moment tu te dis j'en ai plein le dos.
Non, à aucun moment. Mais
pas de doute sur pourquoi le piano après tout. Est-ce que finalement le trombone c'est pas mieux, tu vois, ce genre de
écoute,
ce genre de doute quand t'es devant ton clavier.
Non, j'ai jamais douté de mon instrument.
Ouais.
J'ai eu des moments difficiles avec l'instrument parce que j'ai eu des tendinites, j'ai eu des problèmes d'acouphènes, enfin j'ai eu des bâtons dans les roues.
Ouais.
Mais j'ai jamais envisagé de faire autre chose que ça.
C'est beau, hein, franchement.
Après, je me suis buté à la basse pendant un moment, j'ai commencé à faire quelques concerts et j'avais vraiment envie d'en faire mon métier. Résultat, techniquement, ça cohabitait pas trop bien avec le piano. Et quand j'ai commencé à faire Corneille et qu'il fallait faire des pianos voix devant 8000 personnes, je me suis dit bon, on va peut-être
focus
piano. Donc j'ai mis la basse de côté, j'ai toujours fait un peu de batterie. Et puis j'ai pris des cours de trompette pendant 2 ans. Et là, mon pote, un désastre absolu. J'ai eu 3 profs. Les 3, ils m'ont dit j'ai jamais vu ça. À ce point que à chaque fois que j'en parlais à un autre pote trompettiste, il me disait non mais viens me voir, moi je veux y arriver. J'étais devenu le défi.
Et lui aussi s'est cassé les dents.
Et tout le monde s'est cassé les dents avec moi. Tu vois, la trompette ça a jamais marché.
C'était moi qui prenais pas du coup.
En fait, je sais pas. Tu sais, c'est un truc vraiment particulier sur la pince et tout. C'est un truc musculaire. Et un pote m'a fait essayer le trombone.
Ouais.
Et là, ça marchait beaucoup mieux. Donc c'est peut-être l'embouchure de la trompette qui est trop petite pour ma bouche, j'en sais rien, mais en tout cas la trompette c'était vraiment un désastre absolu, quoi.
Est-ce que on peut, parce que je pense qu'il y a différents types de musiciens et d'artistes, ou en tout cas presque autant que d'artistes évidemment, mais il y a quand même des profils qu'on peut dégager et des gens qui ont tout de suite envie de s'exprimer, par exemple à travers un projet très personnel, etc. Toi, t'étais peut-être plus dans une culture de l'interprétation, de jouer l'instrument avant tout, et d'une certaine manière, peu importe où tu l'appliques, alors j'imagine avec des préférences, etc., mais avec l'idée de, moi, à partir du moment où je vais dans un endroit pour jouer du piano, que ce soit mon projet perso, d'autres, etc., ça me va? On peut dire un peu ça?
Non.
Non, c'est pas passé comme ça, alors?
C'est l'inverse. En fait, moi, comme je te disais, j'ai eu mon groupe à 15 ans, et j'ai commencé à composer à 15 ans. Et en fait, j'avais besoin de composer. C'était vraiment un truc très important pour moi. J'ai eu ce premier groupe, après j'ai eu un autre. J'ai d'ailleurs eu un premier prix de composition au concours de jazz de la Défense en 2001, donc ça fait 20 piges. Et après j'ai fait de la musique électronique, enfin j'ai fait de la house surtout. Et là c'était pareil, en fait j'avais un besoin de composer, de créer, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi. Chose qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui.
Okay.
Aujourd'hui, c'est devenu une tannée de composer parce que je suis devenu tellement exigeant avec moi-même, tellement dur avec moi-même que j'accouche dans la douleur, je me juge en permanence et tout. Et là, mon vrai travail de ces derniers mois, c'est de lâcher prise, de moins me juger, de moins être dur avec moi-même. Et j'ai atteint un degré d'exigence qui est devenu insoutenable, en fait.
C'est marrant, du coup, parce que, en fait, on aurait tendance à penser que c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus tu maîtrises, plus tu vas aller vers une sorte de facilité, tu vois, et en fait, toi, c'est le contraire, c'est plus t'es bon, plus tu pratiques, plus t'as des exigences envers toi-même et plus ça va te bloquer pour la compo.
Bah écoute, déjà, d'une manière générale, j'ai fait beaucoup de musiques différentes aussi parce que j'ai jamais réussi à rester dans une zone de confort. Quand j'ai produit beaucoup de house et que j'ai commencé à avoir des automatismes, c'est là où je suis passé à autre chose. Pareil avec le jazz. Parce que mon tout premier disque, c'était vraiment du jazz sérieux, quoi. Mmh. Et j'ai commencé à avoir vraiment des automatismes de composition et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, faut que je passe à autre chose. Et en fait, d'une manière générale, je suis quelqu'un qui reste pas dans sa zone de confort et qui se challenge en permanence.
Ouais.
Du coup, bah, voilà, ça crée aussi je me mets moi-même en difficulté. Mmh. Ce qui a pu être assez moteur à une période et qui aujourd'hui ne l'est plus. Donc là, j'essaie de me remettre à composer pour Palin Panic pour un éventuel prochain projet, bon, c'est vrai que c'est difficile parce que je suis devenu terriblement exigeant et je regrette quelque part à l'époque où j'étais plus insouciant et où je composais juste pour le plaisir de composer sans
me prendre la tête.
Ouais. Mais tu vois, c'est aussi un truc qui est assez marrant, c'est que tu bosses comme un fou pour atteindre une petite notoriété ou un petit niveau et tout, et ensuite quelque part c'est ta croix, c'est-à-dire que tu peux pas te permettre, en tout cas moi je veux pas me permettre de faire un truc
de sous-délivrer en fait,
exactement, de faire un truc qui est pas à la hauteur de tout ce que j'ai construit jusqu'à présent, tu vois.
Vous savez quoi, et si on s'écoutait un petit extrait sur le dernier album de Panam Panic qui s'appelle Love Humanity 2001, bah voilà, t'as fait le petit jingle à la bouche en même temps que tu le présentes, non.
tu veux quoi, dans le tempo, non, c'est pas ça, ok.
Allez, on s'écoute, c'est le tout premier morceau, Love Humanity. Love Humanity,
tu mettrais pas Takuya plutôt le deuxième?
Allez, bah c'est quoi, tu peux choisir, c'est parti.
Quelle année ça?
Ça 2001.
Non, 2021.
Ah oui, 2021, voilà. Pardon, oui, j'ai dit 2001, pardon, 2021 bien sûr, c'est le dernier album.
Voilà.
Tu sens le truc de jazzeux là?
Ouais, j'aime bien. C'est-à-dire que chaque morceau fait 18 minutes?
Non, j'ai fait attention à ça.
Ouais, c'est vrai?
Bien sûr.
Okay.
C'est un challenge ça pour toi justement de te dire ok le titre
C'est pas du tout un challenge, ça me fait chier les morceaux de 18 minutes.
C'est vrai?
Ouais,
parce
carrément.
Que pourtant dans le jazz c'est récurrent, enfin des morceaux qui durent facile 6 minutes, 7 minutes.
Ouais, mais après t'as le live et puis c'est deux choses différentes, il faut savoir avoir un format plus court.
Ouais.
Et s'adapter à l'écoute, enfin tu vois, c'est... Après le live, le morceau il peut durer un quart d'heure, je m'en fous, si ça se justifie.
Oui, s'il y a une raison, mais du coup ça rentre dans le processus créatif pour toi de te dire on va partir sur du 4 minutes, 5 minutes
Pas sur le processus créatif, parce que tu sais le format jazz c'est ce qu'on appelle thème solo thème, donc exposition de la mélodie, le thème, ensuite improvisation et ensuite réexposition de la mélodie. C'est juste qu'en studio tu dois limiter les solos.
Ouais.
Donc, si le mec il veut raconter une histoire longue, tu dis, non, tu peux pas.
Et là, pour Panam Panic, c'est le groupe. Vous êtes combien dans
On est 5.
5. Okay. Ouais. Et donc toi, tu fais clavier.
Je joue du Rhodes.
Ouais, du Rhodes. Ah, putain, j'adore.
C'est vraiment mon instrument principal. En fait, j'ai fait tous mes albums au Rhodes.
Ouais.
Depuis toujours.
Kiffe.
Donc voilà, je suis plus rhodiste, si ça se dit, que pianiste. Ouais. Tu vois, le piano, finalement, je découvre presque maintenant, quoi. Tu vois.
Alors moi, ce que je trouve étonnant quand même, c'est que on vient d'écouter ce que tu fais avec Panam Panic, et tu te retrouves quand même. Alors là, c'était un morceau récent, mais globalement, t'as toujours une activité très jazz. Bon là, on est jazz groove, on est.
Non, excuse-moi, je te coupe parce que c'est pas tout à fait vrai. Ouais. Mon premier album, c'était vraiment jazz 100%. Ouais. Et après, tout ce que j'ai fait, ça a toujours été des mélanges dans ce goût-là.
Ouais, électro jazz, jazz groove, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même, c'est du jazz.
Oui, c'est une sorte de jazz, mais je veux dire, il y a jazz et jazz, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que il y a.
T'as vu comme ils sont compliqués les jazz.
Ah, c'est les bons chasseurs et les mauvais chasseurs.
Non, mais c'est-à-dire que moi, il y a toute une frange du jazz qu'on pourrait qualifier d'élitiste, et moi, j'ai aucun problème avec ça parce que c'est une réalité. Je pense que il y a tout un jazz où si t'as pas la culture, c'est difficile parce que c'est une musique rugueuse, compliquée. Engagé et du coup qui demande certains repères culturels.
Ouais.
Moi, j'ai fait toute ma vie, à part mon premier album qui était un album de jeunesse où c'était clairement ce que j'avais envie de faire. Et je le regrette pas. Il est ce qu'il était, mais en tout cas, il est sincère.
Une forme de démonstration aussi.
Non, pas vraiment. Ouais. Mais c'était de la musique. Il y avait plus d'accords que de notes dans la mélodie, si tu veux. Donc c'était vraiment compliqué comme musique, tu vois. Quand j'écoute aujourd'hui, je me demande comment j'ai pu écrire ça. mais après ça. J'ai toujours cherché à démocratiser cette musique. En gros, j'essaie de faire du jazz pour les gens qui n'aiment pas le jazz.
Moi je qualifierais ça, et c'est pas
du
tout.
Moi de ça justement.
Ouais, c'est pas du tout un gros mot dans ma bouche. C'est easy listening. C'est du jazz easy listening. C'est-à-dire, tu trouves les codes assez facilement, même quand tu viens pas du tout de ce milieu.
C'est l'idée.
Ouais.
C'est l'idée. En fait, si tu veux, moi, mon public de référence, un peu, c'est mon père. Ouais. C'est-à-dire que mon père, il écoute pas de jazz, il apprécie pas spécialement ça, mais s'il trouve quelque chose auquel se raccrocher, il va pouvoir apprécier. Ouais. Et du coup, je lui ai fait écouter les trucs, s'il kiffe, ça veut dire que c'est gagné. Ça veut dire que je peux à la fois avoir une certaine exigence sur l'improvisation, sur la composition, sur l'interprétation, mais avoir un côté accessible dans la composition, des thèmes qu'on retient ou des grooves qui fonctionnent, enfin quelque chose qui fait que c'est pas une musique pour mec qui s'écoute jouer et qui sait, ouais. tu vois, ça m'intéresse pas ça du tout, ça n'est pas ma démarche musicale, mais je respecte ceux qui le font, mais moi c'est pas du tout mon truc quoi.
Mais du coup tu disais que tes deux parents étaient dans la musique ?
Non. Ma mère, ma mère, elle a chanté quand elle était jeune et mon père, il a fait de la basse quand il était jeune. Mais
il comprenait en tout cas la démarche artistique. Mais
voilà, ils n'en ont pas fait leur métier ni l'un ni l'autre. Enfin, ma mère, elle a un petit peu fait le métier de chanteuse, mais pas longtemps. Elle a fait un peu manager aussi, mais pas longtemps. Et mon père, lui, il a fait de la basse dans des groupes, voilà, de l'époque. Et
c'est marrant parce que normalement, les gens de notre génération, sans donner plus d'indications.
De votre génération, à tous les
moments. Les anciens, on est les anciens.
C'est, tu vois, moi, si je prends mon cas, c'est mon père, c'est un buté de jazz, tu vois.
Moi, pas du tout. Hein.
Ouais, c'est ça qui est marrant, parce que normalement, enfin, pour moi, c'était un truc qui se transmettait, tu sais, par descendance, en fait. C'est vraiment. Alors que toi, pas du tout. Tu y es allé de toi-même. T'es rentré dedans. Ce qui est pas la musique la plus accessible, en fait. C'est vrai que. Tu passes par le hip-hop en plus, donc.
Mais ça, c'est un sujet assez marrant parce que tu vois au conservatoire, on a plein d'élèves qui viennent jouer du jazz mais qui n'en écoutent pas, et ça c'est paradoxal. Du coup, tu sais, tu cherches à leur faire écouter, à leur faire aimer et tout. Donc tu cherches des entrées. Par exemple, s'ils écoutent du rap, bah tu vas essayer de trouver un truc jazz rap justement pour les amener, et puis après progressivement les amener ailleurs. Mais quand je réfléchis à moi, en fait, la première fois que j'ai écouté du jazz, j'ai kiffé en fait. Ça m'a toujours parlé. Il n'y a pas une fois où ça m'a demandé des efforts. Ce qui m'a demandé des efforts, c'est quand je suis allé dans des trucs extrêmes, type free jazz, où là, il n'y a vraiment plus aucun code. Ouais. Là, j'ai pas adhéré. Mais la première fois que j'ai entendu du jazz, j'ai kiffé, en fait. Quel que soit, enfin, il n'y a pas beaucoup de styles de jazz que j'aime pas, en vrai, tu vois.
Et alors, t'as un artiste, toi, qui t'a, en jazz, justement, sur lequel t'as accroché directement, en disant, OK.
Bah, la première tarte que j'ai eue, c'était à mon fameux stage de jazz, là, et c'était un morceau d'Herbie Hancock, quoi.
Ouais, OK.
Ça m'a fasciné, et d'autant plus que j'ai une filiation directe en termes de style de jeu, parce que moi, je suis vraiment un rythmicien.
Ouais.
C'est vraiment mon point fort, c'est un truc que j'ai jamais bossé, le rythme, et pour lequel j'ai toujours eu des facilités. Et on m'a fait écouter un morceau où le mec fait un solo vraiment principalement rythmique, tu vois. Et du coup, ça m'a parlé tout de suite, quoi.
Et puis le côté fusion, entre guillemets, ou en tout cas mélange des genres.
Ouais, c'est ça, parce que Herbie Hancock, je sais pas, enfin, dans ma tête, c'était pas du jazz au sens où je l'entends, mais.
Ça l'est, mais il a tellement touché à tout.
Bah, le gars, en fait, toute sa carrière, il a continué d'évoluer.
C'est fou.
Il a commencé par du jazz vraiment très classique, blue note, très, très blues et tout, machin, un peu bebop, et puis au fur et à mesure, il a évolué, et puis après, il allait sur des trucs vraiment plus free, toute proportion gardée, mais en tout cas plus ouvert. Ensuite, il a été sur des trucs jazz funk, jazz rap. Enfin, il a fait plein de trucs, quoi.
Je l'ai vu en concert à la Défense l'été dernier. Il a plus de 80 ans, je crois. Et impressionnant encore d'avoir la pêche. Il avait une date, je crois, le jour d'avant. Le mec, il a encore la faim, tu vois, de faire des concerts. Alors, il est assis la plupart du temps, mais il va quand même avec la guitare à un moment, tu vois, sur scène, il bouge un peu, etc. Je te souhaite la même longévité.
Bah ouais.
Bon, jazz. Ok, jazz. Alors, avec jazz déjà ouvert, en réalité, avec la volonté de s'ouvrir à un plus grand public, etc. Mais quand même jazz, et puis tu finis par accompagner des gens qui font des musiques comme ça.
Ouais, Corneille, ouais.
C'est pas le même délire, là. Bon, j'avance un peu parce qu'on va reconnaître le morceau. Ça te rappelle des choses, Daz?
Ah là là, on payait en francs encore à l'époque.
Ah oui. Allez, je mets le refrain parce qu'on le connaît. Bon, grand classique.
Bah, Corneille, hein.
Ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir que tu te connectes à une scène complètement différente de musique plus de variété, populaire, etc. Ça peut être aussi, on a évoqué un Gelfay, Ben Oncle Sol, etc. Alors pour certains, vraiment, tu accompagnes sur le long terme, typiquement comme tu le fais avec Ben Mazué, parfois c'est juste pour quelques scènes, etc. Mais en plus, c'est des gens qui se connaissent parfois entre eux, il y a des ponts, etc. Comment t'en arrives à bosser avec, notamment dans les années 2000, avec des Corneille, des Ken Zafara, etc. Toi qui viens du jazz, qu'est-ce que tu te dis?
Alors, c'est pas les années 2000, hein. Moi, c'est les années 2010. 2010. C'est pas du tout la même chose. Ouais. Parce que il faut quand même préciser ça. Les années 2000, Corneille, c'est là où il vend 1,5 million d'albums, où c'est une énorme, énorme star.
T'arrives après, toi.
Moi, je suis arrivé. Oui, il s'était pris un méga four. Il avait eu 4-5 ans d'absence et il revenait par la petite porte.
Est-ce que tu veux dire que c'était plus accessible pour toi en tant que musicien de pouvoir accompagner un artiste comme ça?
Non, c'est pas spécialement ça. C'est pour resituer. C'est-à-dire que moi, la première date que j'ai faite avec Corneille, c'était dans une petite péniche à Lille devant 100 personnes. Ouais. On n'était que deux musiciens sur scène. C'était très intimiste et c'était le retour de Corneille par la petite porte. Ouais. Donc moi, j'ai pas connu la grande époque de Corneille où il était vraiment énorme, quoi. Tu vois, il a été vraiment, vraiment très, très gros à une époque. Hein. Donc alors, pour répondre à ta question, comment j'arrive là-dedans? Alors, en fait, c'est une histoire de réseau. En gros, moi je connais Ben l'Oncle Soul depuis très longtemps, bien avant qu'il s'appelle Ben l'Oncle Soul, il s'appelait encore Oncle Ben à l'époque. Et puis on avait joué à Paris ensemble, machin, petit concert, je sais plus où, Jamel Comedy Club ou un truc comme ça, je sais plus où on avait joué. Bon bref. Et donc ensuite il a fait son album qui a commencé à marcher. Il a eu besoin d'un remplaçant sur une date et donc il m'a appelé. Pour dépanner, donc j'ai fait le concert, ça s'est super bien passé. Et ensuite, quand Corneille a commencé à revenir, son tourneur, donc pour les gens qui savent pas, le tourneur c'est le mec qui fait tourner, enfin c'est la boîte qui fait tourner l'artiste, qui lui trouve des dates. Donc le tourneur avait besoin d'un pianiste. Et donc ils ont demandé au manager de Ben l'Oncle Soul, genre est-ce que tu connaîtrais quelqu'un? Et comme moi j'avais super fait le taf en tant que remplaçant, j'étais arrivé sérieux, j'avais appris les morceaux par cœur, tout bien. Les fringues et tout, c'est à l'époque où il était vraiment en mode soul, tu vois. Ouais. Et donc, ils m'ont recommandé. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait. Ensuite, on a discuté avec Corneille par WhatsApp. Enfin, c'était non, pas WhatsApp à l'époque, mais je sais plus ce que c'était.
Messenger, IRC peut-être même.
Non, c'était... comment s'appelle ce truc où tu fais des visios, là?
Skype,
merci, voilà. Et voilà, on s'est bien entendu, et puis c'est comme ça que c'est parti, quoi. Mmh. Et en fait, moi, dans l'ensemble, j'ai fait très peu d'auditions. Ouais. La plupart des trucs que j'ai fait, c'est des recommandations.
Sur donc Kenza ou les artistes que t'accompagnes, toi, c'est vraiment purement de l'accompagnement sur scène. C'est-à-dire que tu t'as rien composé pour ces gens-là, t'as pas fait de session studio avec elle,
notamment avec les personnes sur le long terme, par exemple avec Ben Mazuet, est-ce que c'est peut-être l'exemple le plus récent et puis très long? Est-ce que ça t'arrive quand même de mettre les mains, d'aller en studio, de parfois d'enregistrer avec eux, ou est-ce que effectivement, comme le Dida, ça s'arrête uniquement à la scène?
Alors pour Corneille, j'ai enregistré sur pratiquement même tous les titres, je pense, de l'album Les Inséparables.
D'accord.
J'ai enregistré aussi sur l'album d'après qui s'appelle Entre Nord et Sud, et j'ai même fait une prod, un morceau qui s'appelle Notre Année. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais décidé de me remettre à la prod après quelques années d'arrêt, et je lui ai envoyé le truc en lui demandant son avis, juste savoir ce qu'il en pensait, tu vois. Et il m'a dit, ah, elle est mortelle, je le prends pour l'album, quoi. Donc voilà. Et pour Ben Mazuet, je participe pas du tout en studio, sauf sur un morceau.
Sur La Femme Idéale, sur l'album La Femme Idéale.
Ouais, c'est ça. Je joue sur les claviers sur J'attends. Mais sinon, en fait, il travaille avec Guillaume Poncelet.
Est-ce que honnêtement, c'est une forme de frustration que d'être pas en studio et de pas être le pianiste attitré, ou est-ce que c'est normal? Enfin, comment ça se passe? Comment expliquer tout ça?
Alors en fait, pas du tout, parce que moi je suis le pianiste attitré, mais du live.
Ok. D'accord. Et c'est vraiment, faut séparer les deux pour.
Ah ouais. c'est du travail complètement différent, c'est pas du tout la même chose, c'est pas les mêmes compétences non plus. Alors Guillaume, lui, il a les deux, donc il pourrait très bien être à ma place sur scène, mais Guillaume, il est avec Gaël Faye sur scène, donc à un moment, tu peux pas être partout. Ouais. Et donc Guillaume, lui, en studio, il est monstrueux, c'est-à-dire que c'est un pianiste extrêmement talentueux, c'est un trompettiste extrêmement talentueux, pour moi c'est un de mes, peut-être même mon préféré en France. C'est un arrangeur de fou, il peut arranger des trucs, c'est lui qui fait tous les cuivres, tous les cordes et tous les trucs, c'est lui qui arrange tout. Il écrit, enfin par ailleurs, il fait de la musique de film et tout, tu vois. Donc c'est un mec complet, il fait un peu de prod aussi. Qu'est-ce que tu veux, le mec, c'est l'homme orchestre, qu'à un moment il a besoin de personne d'autre, tu vois. Donc ça se passe très bien. En plus, je sais qu'il collabore très bien avec Ben Mazuet, avec qui ils s'entendent très bien, ils sont très complémentaires sur la compo. Donc je laisse Guillaume faire ce qu'il sait faire avec la maestria qu'on lui connaît, et ensuite moi j'arrange certains morceaux, tu vois. Il y a des morceaux qui sont produits, qu'on fait en version plus dépouillée sur scène, donc là je fais des arrangements, je trouve des parties de piano, machin, et puis il y a des trucs que je reproduis bah, y a certaines parties de piano de Guillaume que je reprends, quoi. Alors évidemment, je les transforme un tout petit chouïa parce que chaque pianiste a son empreinte et c'est pas toujours évident de marcher dans l'empreinte d'un autre.
Mais c'est la question que je me posais justement. Ouais. Est-ce que c'est pas trop dur de...
Bah, rejouer à l'identique, ouais. Si. Du coup, j'essaie de faire au plus proche, mais de temps en temps, je fais des micro-adaptations qui fait que personne s'en rend compte, mais moi, ça me facilite le jeu par rapport à mon jeu à moi, tu vois. Mais non, donc pour revenir à ta question, c'est pas du tout une frustration et c'est très bien que ce soit comme ça. Moi, j'ai pas les compétences de mec de studio qui arrive à qui on dit vas-y 3-4 enregistre. De temps en temps, on m'appelle pour me dire ouais, tu peux pas enregistrer ça et tout, et je le fais volontiers, moyennant un salaire extrêmement élevé. Non, je le fais volontiers, mais je le fais souvent chez moi. J'enregistre et j'envoie les trucs comme ça, parce que moi, je suis, comme tu le sais, je suis très exigeant avec moi-même. Et des fois, je peux faire 25 prises, quoi, tu vois, jusqu'à temps d'avoir le truc qui me plaît. Et je peux pas imposer ça à un mec en studio à faire 25 prises jusqu'à temps d'avoir celle qui me plaît. Et d'ailleurs, ça m'arrive avec Corneille sur l'album Les Inséparables. Il y a un piano voix qui s'appelle Tout ce que tu pourras. Et Corneille, il voulait absolument que j'enregistre d'une traite, tu vois, en studio. Et moi, je suis pas du tout content de ce que j'ai enregistré. Mais voilà, lui, ça lui convenait. Moi, je trouve ça nul. Enfin, nul, j'exagère, mais c'est vraiment pas terrible, tu vois. J'aurais pu faire beaucoup mieux avec plus de temps. Tu vois, pour travailler ma partie, chercher. J'aime bien prendre le temps de faire les choses bien. Et du coup, bah, quand on attend de moi que je trouve les réponses tout de suite, je me mets la pression, je suis pas bien et je le vis mal, en fait. Donc, autant qu'un mec comme Guillaume, lui, tu dis un truc, 3-4, c'est enregistré, merci, au revoir. Le mec est parfait, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, j'ai pas ses compétences, tu vois.
Alors, on s'écoute un peu de... Parce que tout le monde ne voit peut-être pas Ben Mazuet. D'ailleurs, ça, c'est un truc... Tu me dis si t'es d'accord. Alors, toi, t'es dedans. Je sais pas si t'as un regard avec un peu de recul dessus. C'est marrant parce que à la fois, c'est un mec assez important dans la chanson française aujourd'hui. Et en même temps, c'est pas un nom que tout le monde connaît dans le grand public. Enfin, tu sais, il y a un espèce de... Est-ce que c'est que l'époque a changé, qu'il y a plus le temps de... qu'on peut avoir sa niche, entre guillemets, et d'être quelqu'un d'important sur une scène sans être la méga star à l'échelle nationale?
Alors,
c'est un truc étonnant, je
trouve. Ça, c'est pas nouveau, hein. Ça, c'est pas du tout nouveau. Je veux dire, il y a plein de groupes, de chansons françaises ou, et assimilées, tu vois. Je pense à des trucs genre Carpathes ou des groupes de festivals, par exemple, comme ça, qui font album sur album, qui remplissent, qui font des tournées. Et que personne ne connaît.
Pas parler,
ouais, mais pour autant, il y a quand même une couverture médiatique de Ben Mazuet. C'est pour ça que c'est un entre-deux. C'est pas seulement, tu vois, le mec qui est seul dans son coin, entre guillemets, avec son public fidèle et qui fait quelques tournées ou quelques festivals, etc. C'est quand même, là, par exemple, il y a beaucoup de buzz autour du fait qu'il fait un album commun avec Grand Corps Malade et Gelfa, etc. C'est un mec quand même qui est exposé. Mais pour autant, c'est pas Johnny Hallyday, tu vois. Alors qu'il y aurait j'exagère avec Johnny Hallyday, mais tu vois ce que je veux dire, le potentiel d'un truc très grand public, que le nom soit encore plus connu.
Bah, en fait, le truc de Ben, c'est que il est en pleine pente ascendante. Moi, depuis que je joue avec lui, je crois qu'il avait genre 15 000 followers sur Insta quand je l'ai connu. Maintenant, il en a 110, tu vois. Donc, depuis que je travaille avec lui, depuis 8 ans, je l'ai vu faire ça, tu vois, vraiment. Ah oui, pour les gens qui écoutent, je suis en train de mimer
la pente ascendante.
Voilà, c'est ça, c'est que en fait, moi j'ai joué avec lui dans des salles de moins de 100 personnes. Ouais. Tu vois, on a joué au Festival d'Avignon, des fois il y avait 42 personnes.
Sachant
tu vois.
Qu'aujourd'hui vous faites le Zénith de Paris, vous faites la salle Playel, etc.
Bah ouais.
Du monde quoi.
Bah ouais, donc c'est plus du tout le même game aujourd'hui, tu vois. Donc il y a une époque, on sortait de scène, on pouvait discuter avec chacun des gens qui étaient dans la salle, tu vois. C'était hyper cool d'ailleurs. Maintenant c'est plus possible.
On parlera de la vie en tournée, juste pour les gens qui ne connaissent pas éventuellement voient un peu l'univers musical de Ben Mazuet. Il y a un de ses tubes sur la femme idéale qui est La mer calme. On peut mettre ça par exemple pour commencer. Toi, t'as des morceaux que t'aimerais plutôt écouter de Ben ou que t'apprécies,
bah,
comme
fait,
ça en donne un exemple.
Bah, surtout son single, c'est Quand je marche, quoi.
Ouais.
C'est ça, bah, son. Écoute.
Mais oui, mais c'est sur Paradis. Moi, je voulais mettre aussi sur l'ancien. Mais vas-y, allez, on met Quand je marche. C'est parti.
Faut que je rappelle mon père d'abord. Faut que je prévoie cette fête que j'ai promis de faire pour le disque d'or. Faut que je pense à l'été. Trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai, et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu, elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit, je vais répondre oui mais que je sais plus, puis faudra que je pense à samedi, j'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres, et dimanche on ira voir mon père, on regardera le match.
C'est Renaud en fait votre...
C'est vrai, hein. il y a un truc de Renaud sur ce titre en particulier.
Un peu dans Mistral gagnant, hein, sur les bords.
Mais pas en général, mais sur ce titre... c'est vrai.
Ouais, la façon de...
De scander un peu presque.
Ouais, de balancer le texte.
Ouais, effectivement.
Après, c'est difficile de résumer un artiste comme Ben en un bout de chanson. Ouais. Parce qu'il a un univers assez vaste. Alors, il parle principalement d'amour, hein. Puis là, le Paradis, c'est un album sur son divorce, quoi, tu vois. Enfin, sur sa séparation. Donc voilà, mais il arrive à faire de d'une manière générale sur tous ses albums, il y a des sujets différents, mais il arrive à toucher à l'essentiel d'une émotion et qui fait que moi j'ai des potes qui connaissaient pas du tout, qui sont venus voir en live et qui ont adoré et qui ont été super touchés. Bah d'ailleurs, moi quand j'ai commencé à travailler avec Ben, parce que tu vois, on parlait de rencontre l'autre fois, et là encore une fois c'est par recommandation, c'est-à-dire que à la base Ben il avait des musiciens, il faisait des concerts normaux entre guillemets. Et puis, il a décidé de changer de format. Il a décidé de faire une sorte de seul en scène avec des morceaux joués et puis des bouts de texte un peu scandés où il joue un peu, enfin, pas des sketchs, c'est pas du tout le mot adapté, mais où il joue des personnages, où il s'adresse aux gens, tu vois. Donc, pas un concert où ça joue d'une traite, tu vois.
Forme de mise en scène, quoi.
Exactement. Ouais. Et donc, il a décidé de faire ça avec un pianiste et il a proposé à Guillaume. Et Guillaume, à l'époque, il était avec Ayo. Et donc, il n'était pas du tout disponible. Et donc, il m'a appelé, il m'a dit « Ouais, tu connais Ben Mazué ?» Je dis « Bah non. » Il m'a dit « Bah écoute, et si ça te plaît, je vous mets en relation, tu vois. » J'ai écouté deux chansons, j'ai pleuré. Et donc, j'ai dit « Bah vas-y, c'est bon, c'est parti, quoi, tu vois. »
Est-ce que pour accompagner un artiste, il faut d'une part aimer sa musique, voire aimer la personne, ou on peut quand même le faire, même si c'est parfois plus compliqué?
Alors, voudrait dire que j'ai une réponse absolue.
Toi, globale. C'est ta vision à toi.
Moi, je connais des mecs qui sont des mercenaires. Enfin, tu vois, ça fait un peu, c'est un peu péjoratif, mais en tout cas, des mecs, on va dire, qui sont très très professionnels et qui savent faire la part des choses. Pour moi, c'est plus difficile. Ouais. Alors
t'as
déjà,
quand même besoin d'adhérer avec ce que l'artiste propose, quoi.
Bah, musicalement, déjà, moi, je peux pas jouer une musique qui me plaît pas. Ça n'est pas possible, tu vois. On m'a déjà proposé des trucs que j'ai refusé parce que ça me plaisait pas. Et même des trucs financièrement très intéressants, tu vois. Ouais. Et ça n'est pas pour moi ça n'a pas de valeur pour moi, tu vois, l'argent. Enfin, ouais. En tout cas,
ça rentre pas dans l'équation.
Du tout. Je veux dire, si on propose un truc extrêmement bien payé, enfin, de toute façon, c'est jamais extrêmement bien payé, mais en tout cas, bien payé, mais qui me fait chier, bah, écoute, je préfère rester chez moi et puis bouffer des pâtes, tant pis, tu vois. Ça m'intéresse pas.
On va pas citer de nom, mais moi ça m'intéressera, on en discutera après, du coup.
Ouais, non, mais des fois il y a des artistes de qualité, mais juste j'adhère pas à la musique, en fait. Ouais. Tu vois, ouais. C'est pas que c'est pas bien, hein. C'est juste moi j'adhère pas à la musique, et du coup si je me projette pas dans le truc, en fait, moi, si tu veux, je suis quelqu'un de très engagé dans la vie. Quand je fais un truc, je le fais à fond, et j'ai besoin de savoir que je vais apporter ma pierre à l'édifice, que le fait que ce soit moi, ça va servir à quelque chose, tu vois. Si ça peut être n'importe qui lambda et que en plus j'y kiffe pas spécialement, bah autant prendre n'importe qui lambda.
Ouais.
Tu vois, je m'en fous, quoi.
Ouais. Et sur l'aspect humain, au-delà de la musique, on peut tourner avec quelqu'un. Parfois, il y a de la tension, ou faut s'aimer, il faut que tu vis ensemble. Et ça va nous permettre ensuite de passer à la deuxième partie sur la vie de tournée, justement.
Alors moi, globalement, j'ai tourné avec des mecs adorables. Ouais. J'ai eu une tournée, d'ailleurs, qui s'est pas faite. Enfin, voilà, j'ai travaillé avec Doc Gynéco. J'ai fait toute la direction musicale de sa tournée.
Pour le retour, enfin, c'est pour les 20 ans de première consultation, c'est
exactement.
Ça.
Exactement. Ouais. Et fait, ça s'est très mal passé. Justement, je me suis barré 10 jours avant le premier concert, quoi.
Ah ouais?
Ah ouais, ça s'est très mal passé humainement.
Ça a l'air d'être un mec plutôt relax, tu vois.
Ouais, voilà, ça a l'air. je vais pas rentrer dans les détails, ouais. Voilà, mais ça s'est très très mal passé, je l'ai très mal vécu, très très mal vécu. Ça a d'ailleurs été un game changer, quoi, c'est-à-dire que ça a changé complètement ma vie après, c'est-à-dire que en fait, en gros, j'ai bossé comme un chien pour cette direction musicale qui a été extrêmement compliquée à réaliser pour tout un tas de raisons. Et j'ai eu aucune reconnaissance, rien du tout. Je me suis fait vraiment cracher dessus, quoi. Donc à un moment, j'ai dit bah les gars, stop, quoi. Ça y est, je me casse.
C'est d'autant plus con que musicalement, l'album il est super intéressant.
Ouais, première consultation,
il laisse tomber. Moi, j'étais trop fier de faire ça. Cet album, il déchire. Ouais. Mais voilà, humainement, ça l'a pas fait. Donc j'ai préféré quitter avant. Et c'est la meilleure décision de toute ma vie. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment en burn-out à l'époque où je travaillais pour lui. Mm-hmm. Et quand je dis que ça a été un game changer, c'est-à-dire que je ne veux plus travailler comme un chien, comme je l'ai fait pour lui, quoi. C'est-à-dire que je m'en suis rendu vraiment malade, quoi. J'étais pas bien, pas bien du tout. Puis j'avais plein de soucis, de problèmes à régler. Je me réveillais à 4h du matin en bad et tout. Et je veux plus m'infliger ça, quoi. Donc, tu vois, là, j'étais en tournée avec Ben et on m'a proposé des trucs intéressants à faire musicalement. Bah, j'ai préféré dire non parce que ça m'a amené une surcharge de travail que je savais que je pouvais pas assumer. En tout cas, je veux plus assumer.
Ouais.
Et voilà.
Parce que ça t'a permis de. Ouais, non, mais c'est bien de, justement, de savoir un peu de. Enfin, ça t'a permis de savoir ce que tu voulais, ce que tu voulais pas, etc. Donc, quelque part, c'est formateur aussi, quoi.
C'est clair. Mais en tout cas, pour revenir à ce que tu disais, vu qu'on passe beaucoup de temps ensemble en tournée, si ça se passe mal humainement, c'est compliqué, quoi. Compliqué. Ouais. Très, très compliqué.
La vie de tournée, parlons-en dans cette deuxième partie.
Quelle transition,
incroyable. Quel talent.
Non, c'est fou. C'est un artiste.
C'est très concrètement, c'est quoi sur ces 15 mois? C'est chaque semaine vous partez, vous prenez le train. Comment ça se passe? C'est quoi le rythme de vie qu'on est sur une tournée assez importante, mine de rien, comme sur la tournée de Paradis avec Ben Mazuet?
Alors le début de la tournée, on était en train et en hôtel, et on dormait à l'hôtel. Et on s'est très vite rendu compte que ça allait devenir compliqué par rapport à certaines dates. Par exemple, ça nous est arrivé de jouer à Strasbourg, le lendemain à La Rochelle, et le lendemain à Dijon. Enfin, tu vois. Ah ouais, donc, okay. En train, ça, c'est absolument infaisable.
Hélicoptère.
Voilà. Non, bah, en fait, tourbus.
Tourbus. Ah oui, tourbus. Bah oui.
Donc, le principe du tourbus, c'est que c'est un bus aménagé et qui a des couchettes dedans. Donc, en gros, on part la veille d'un concert et on arrive le matin sur place. Comme ça, les techniciens, ils peuvent installer parce que on ne parle pas assez de ces gens de l'ombre. Mais les techniciens sont là pour installer tout ce qui est pour préparer le son, pour préparer les lumières. Surtout les lumières, c'est un bordel monstrueux, ça prend énormément de temps. Donc il faut qu'ils soient là tôt. Et puis en plus, nous, il y avait un écran géant sur scène, donc il faut installer l'écran et tout, machin. C'est tout un bazar. Et voilà, on fait le concert le soir, et le concert, le temps qui remballe, et après on part, on reprend le tourbus, direction la ville du lendemain, quoi.
Donc là, vous avez fait 120 dates, tu disais, en 15 mois.
Ouais, c'est ça.
Bah, ça fait
un rythme de ouf. En fait.
Toutes les semaines, vous partiez?
Pratiquement, ouais.
Ouais.
Moi,
plusieurs jours.
C'était minimum 2-3 jours et maximum, on a fait 5 dates d'affilée. Je peux te dire que la 5e, elle pique fort, quoi.
Mais je savais même pas qu'il y avait 120 salles de concert en France. Je veux dire, c'était une tournée France-France ou vous partiez en Belgique,
On a fait quelques dates en Suisse et quelques dates en Belgique aussi, ouais. Mais on a eu des doublés aussi. Tu vois, par exemple, on a fait 2 fois à Lille, 2 fois à Bordeaux, ouais, 2 fois à Lyon. Okay. Enfin, ouais. Tu vois.
C'est quoi pour toi les aspects marquants d'une tournée? Qu'est-ce que t'apprécies, qu'est-ce que t'aimes moins?
Alors, ce que j'aime pas, l'hygiène. C'est-à-dire que tu, en fait, en gros, t'arrives le matin et tu vas te doucher dans les salles dans lesquelles t'arrives, tu vois, et dans les salles encore ça va, mais les festivals, enfin, tu te douches dans des Algeco pourries, les chiottes, c'est souvent des toilettes sèches ou des trucs comme ça. Pour l'intimité, c'est vraiment
c'est pas, ouf,
pas très agréable, quoi. Donc, faut prendre sur soi et se dire, bon, bah, c'est pas grave. Voilà, ça, c'est désagréable. Faut savoir aussi un truc, c'est que le tourbus a des règles. Ouais. Et une des règles, c'est t'as pas le droit de faire caca.
Pour pas pourrir le bus, c'est
pour
ça?
Pour pas pourrir l'odeur du bus. Voilà. Donc, si t'as mal au bide dans la nuit, bah, il faut aller voir le chauffeur, puis il faut refoutre ton flûte, faut machin, ou sinon t'attends, voilà.
C'est une règle absolue, ça?
C'est une règle absolue. Non, c'est une règle absolue.
Qui a décidé de cette règle?
C'est une règle de
défoncer un tourbus une fois.
C'est des règles de bienséance, en fait, de respect de la communauté. C'est très important de bien vivre en communauté quand t'es en tournée.
Vous êtes à combien dans ce tourbus?
Alors, nous, c'est cool. On est une petite équipe, on est 9 dans un tourbus de 14, je crois, donc on n'est pas à l'étroit. Mais il y a des fois des tourbus qui sont remplis, quoi. Et donc là, ça complique encore plus les choses, tu vois.
Franchement, il y a d'autres trucs que t'aimes pas?
Non, que j'aime pas, franchement, c'est cool. Bah, en fait, c'est fatigant parce que moi, je suis le couche-tôt de la bande. Okay. Moi, j'arrive à minuit et demi, machin, je suis le premier dans.
Tu fais pas la fête après les dates et tout?
Ah non, moi, je suis très rigoureux, je me couche assez tôt, pour le plus tôt que je puisse me coucher, quoi, en tout cas. Je me lève le matin, j'ai un rythme de vie très strict, c'est pareil, tu vois, je vais courir. Après, c'est la douche, après, c'est le petit-déj, après, tu vois, l'après-midi, je fais une petite sieste et tout. Je suis très organisé parce qu'en fait, si t'as pas une hygiène de vie irréprochable, tu trinques très vite. Ouais. Tu peux vite morfler, c'est vite très, très, très fatigant. Mais voilà, non, sinon, dans les choses que j'aime pas, non, s'il y a un truc qui est difficile aussi, c'est si t'as un ronfleur dans l'équipe, ce qui est notre cas.
Ouais. Et, c'est Ben, c'est ça, c'est lui qui va casser son image.
Non, c'est pas Ben. Mais ça m'est arrivé une fois d'avoir une nuit pourrie et du coup, j'ai défoncé le mec le lendemain parce que je lui ai dit, mais mec, prends, tu sais, il a un genre d'écarteur de nez, machin, dès qu'il le met pas, c'est l'enfer, tu vois, et ça te défonce ta nuit, quoi.
Ouais.
Et le mec, il ronfle tellement fort que même, il y a des parois qui, avec, tu vois, enfin, il y a des compartiments et tu, de l'autre côté du compartiment, t'entends, tu vois. Donc, à un moment, et puis en plus, tu sais, la nuit, t'arrives pas à dormir, donc tu te mets l'angoisse sur, putain, demain, il faut que je sois en forme, du coup, tu maudis ton pote, et tu sais, après, c'est le cercle vicieux, t'arrives pas à dormir, donc t'arrives pas à dormir, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Tu te mets l'enfer, quoi. Donc ça peut être assez épuisant, tu vois. Puis il y a aussi un truc, c'est que
ça vit en communauté, quoi. C'est vraiment
carrément. Et il y a aussi le fait que t'es dans un tourbus et du coup, bah le mec, il a quand même à manœuvrer un engin qui fait 25 mètres de long, je sais pas combien, mais en tout cas c'est long, quoi, tu vois. Et donc quand il doit faire des créneaux, il s'y reprend à plusieurs reprises. Et là, ça saute, quoi, tu vois. Donc ça te réveille. S'il arrive sur la date trop tôt, genre à 6h du mat et qui fait ses manœuvres à 6h du mat, bah t'es sûr que tu vas te réveiller parce que ça saute, quoi. Mmh. Et puis bon, sur cette tournée, on a été maudits de ouf, on a eu des problèmes de tourbus à répétition, les freins qui marchent plus, la clim qui marche plus en plein été, machin. Il y a une fois, on avait 4 dates, je crois, on a eu 3 tourbus, quoi. Tu vois, tous les jours, ils nous ont ramené un nouveau parce qu'il y avait des problèmes avec le tourbus. Enfin,
c'est confort, un tourbus? Est-ce qu'il y a différents modèles qui choisissent? Enfin, ça doit, j'imagine qu'il y a un univers autour du tourbus.
Non, mais quand on en croise, ça a l'air cool, hein.
Moi, j'adore le tourbus. Je dors hyper bien dedans.
Okay.
Et justement, tu vois, je vais t'apporter quelques réponses par rapport à ça. C'est que sur le début de la tournée, on faisait du train et hôtel. Ouais. Et ce qui est génial dans l'hôtel, c'est que t'as ton intimité, t'es tranquille, t'es dans ta chambre, t'es au calme, tu subis personne. Sauf que c'est jamais le même agencement de la chambre, donc tu te réveilles dans la nuit, t'as envie de pisser, bah tu sais plus trop où sont les chiottes.
Ah, c'est dur, la vie.
C'est jamais la même température, donc des fois t'as trop chaud, des fois t'as trop froid, machin. Ouais. La plupart des gens qui sont là, c'est des gens qui ont un taf normal, donc ils se lèvent tôt. Pour eux, c'est normal de se lever à 7h30 et de commencer à taper la discute fort dans les couloirs, donc ils te réveillent. Et toi, tu t'es couché à 2 ou 3 du mat, donc t'as besoin de sommeil, donc t'es réveillé trop tôt. Enfin, les hôtels, c'est finalement un peu la purge. C'est pas si génial que ça. Alors que le tourbus, tu vois, j'ai toujours ma chambre au même endroit. On se respecte tous, donc on fait très attention au silence pour pas niquer le sommeil des uns et des autres. Donc, tu vois, puis surtout, j'ai toujours ma chambre à portée de main. Alors que quand t'es dans une salle, je sais pas moi, un Zénith, c'est complètement en périphérie de la ville. Donc, si ton hôtel, il est en centre-ville, il faut que quelqu'un t'y emmène. T'as pas toujours quelqu'un de disponible. Enfin, tu vois, ça devient très compliqué juste pour faire une sieste, quoi. Donc, le tourbus, il y a quelque chose de très agréable, c'est que, en fait, ça te crée quelque chose de familier dans un univers où tous les jours, ton quotidien est différent. Et c'est très agréable d'avoir quelque chose qui t'est familier.
Et pour le côté cohésion de l'équipe, même, moi j'imagine que le tourbus, ça permet trop bien. Aussi de voilà.
Tu finis le concert, t'arrives, t'as ton plateau, on a un plateau de charcuterie à chaque fois. du coup, ça, tu vois, on parlait des trucs cool. Ou je sais pas si je le mets dans les cool et pas cool. En vrai, en même temps, c'est trop cool et en même temps, tu fais 4 repas au lieu de 3 par jour parce que t'as fini ton concert, tu rentres, t'as ton plateau de charcuterie. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu bois du vin et tu manges la charcuterie et tu discutes avec les potes. Donc ça crée aussi un truc hyper hyper convivial et c'est une sorte de vie de famille, quoi, tu vois.
Ouais. Une fois que la tournée est terminée, chacun retourne à son quotidien, son coin, ou vous retrouvez quand même? C'est fini.
Ouais,
c'est une espèce de parenthèse comme ça.
Bah en fait, c'est assez bizarre le métier de musicien, particulièrement pour un mec comme moi qui suis très affectif. C'est que ça crée un univers très familial avec des liens très resserrés. On se voit dans l'intimité tous les jours. On se raconte beaucoup de choses sur chacun de nos quotidiens et tout, donc on connaît énormément de choses sur les uns et sur les autres. Et à la fois, on reste des collègues.
Ouais.
Tu vois. Donc, après, chacun retourne à sa vie et puis c'est tout, quoi. Tu vois. Après, on se donne des
noms. T'as pas créé plus de liens qui ont perduré après les tournées.
Les liens, ils perdurent, si tu veux, mais chacun a son boulot, chacun a ses vies de famille ou autre, enfin ses obligations, tu vois. Ouais. Donc c'est peut-être un petit texto de temps en temps, mais
ouais, parce qu'on pourrait penser quand même 15 mois, enfin c'est long, tu vois.
Mais oui, mais surtout 8 ans. Enfin moi ça fait 8 ans que je travaille avec Ben et c'est le même ingé son depuis 8 ans, même depuis le début. Lui il est là, il a enterré tout le monde, c'est-à-dire que lui il est là depuis 2005, tu vois, ou 2006. Il y a quand même ce truc de collègue, quoi, tu vois. Ouais. Donc, tu retournes à ta vie normale et puis, dans ta vie normale, t'avais des amis avant et t'en auras après, quoi. Mmh. Tu vois?
Ah, c'est marrant, ouais.
Ça crée des liens particuliers. On a tous une affection particulière. Et moi, ce que j'aime dans cette équipe de Ben Mazuel, c'est que on est clairement une bande de bras cassés avec chacun ses failles, ses casseroles et voilà. Mais on s'aime et on se prend comme on est, on se juge pas. Et c'est ça qui fait que ça marche, quoi. On a le droit de faire le connard un soir et de s'excuser le lendemain et puis c'est pas grave, ouais, en fait, tu vois. Alors bon, on évite autant que faire se peut, mais ça arrive, t'as trop bu, machin.
C'est le côté familial, ouais.
Exactement. Ouais.
Est-ce que c'est facile de gérer? Alors, tu dis que dans l'équipe de Ben Maduet, je sais pas comment ça se passe, mais avec d'autres tournées que t'as connues, le fait que parfois il y a pas aussi la même conception de la vie de musicien en dehors de la scène. J'entends par là que toi tu parles par exemple d'une hygiène de vie assez stricte, mine de rien. J'imagine qu'il y a beaucoup de musiciens, notamment jeunes, qui sont pas dans cet esprit-là et plus dans un esprit de profiter absolument, quitte à y laisser passer un peu de santé. Comment on arrive à, est-ce que ça t'est déjà arrivé en tournée de devoir faire avec ça? Comment on se synchronise quand même pour arriver à vivre ensemble?
Bah c'est le cas déjà, hein. Enfin, je veux dire, nous, notre régisseur, il dort peu, il bosse comme un malade. Lui, vu qu'il taffe toute la journée, parce que régisseur, c'est un métier pas connu, mais c'est sans la régie, bah il se passe rien, en fait. C'est lui qui organise tout, qui gère le montage de matos, à quelle heure on arrive, où on arrive, où on va se garer. Enfin, il y a plein de détails d'une tournée que personne connaît, qui sont extrêmement importants. Rien que savoir où va se garer le tourbus, parce que ton truc qui fait, quand tu joues en centre-ville de Tours, par exemple, et que tu sais pas où garer ton truc, faut bien gérer ce genre de détails, tu vois. Tous les transferts vers l'hôtel, enfin, il y a tout un tas de trucs énormes, et je saurais même pas dire le nombre de choses qu'il y a à faire, mais c'est énormément de travail d'organisation. Et lui, il travaille toute la journée. C'est le premier arrivé dans la salle parce qu'il faut qu'il nous montre, il nous envoie, on a un groupe WhatsApp, des photos de là où il y a les douches, là où il y a le petit-déj, là où il y a tout. C'est notre papa, en fait, tu vois. On est vraiment materné, ou paterné, je sais pas si on peut dire.
Ça marche aussi, ouais.
Et il travaille jusqu'au démontage, donc il finit à minuit et demi, une heure, tu vois. Et il rentre, il commence à se détendre là, et il boit des pastis, et il finit à je sais pas, 3-4 heures du mat, tu vois. Donc moi, je suis couché bien avant eux. Et c'est pas du tout un problème, dans la mesure où ils foutent pas le bordel dans le tourbus, c'est que moi, je peux dormir en haut. Tout va bien, tu vois. Ils ont déjà fait des blind tests et des trucs, et moi, j'étais en train de dormir. Et
ça t'a pas gêné, ouais.
Non, parce que déjà, c'est relativement bien isolé. Et puis,
tu peux quand même avoir ta vie en parallèle, quoi, que ça continue à... Ok, c'est cool.
Exactement. Bah, en fait, il y a un étage, quoi. Donc, les chambres, elles sont à l'étage, et il y a une espèce de salon avec cuisine et tout en bas. Et pour les réunions de famille, c'est en bas. Et puis, pour ceux, les dormeurs, c'est en haut, quoi.
Est-ce que je dis une bêtise quand... Parce qu'il me semble que... Pour une tournée en tout cas de Ben Maduet, il y a eu une victoire de la musique.
Tout à fait. Exactement. Ouais.
Mine de rien, en 2022 d'ailleurs.
En 2022.
Je crois que la victoire de la musique, c'est allée en 2022.
Ouais, c'est ça. Oh là là, je suis tellement déconnecté. Ouais, si, c'est ça, c'est cette année.
C'est ça, ouais. C'est cette année.
Bah ouais. Victoire du meilleur concert de l'année, en fait.
Ouais.
Et c'est pour quelle date? Une date en particulier?
Non, c'est pour l'ensemble du spectacle. Voilà.
Est-ce que, mine de rien, c'est aussi une récompense pour toi, puisque tu es partie intégrante de cette tournée?
T'as eu un trophée?
Non, en fait, c'est assez triste, c'est que en fait, il y a que l'artiste et le producteur qui ont un trophée, alors que là, c'est vraiment victoire de, enfin, meilleur concert et un concert sans une équipe et technique et administrative et musicale, ça n'existe pas. Donc en vrai, ils devraient faire des mini trophées, ne serait-ce qu'en plastique, pour tout le monde, en fait, tu vois. Ben, il avait parlé d'éventuellement en faire avec une imprimante 3D, mais pour l'instant, j'en ai pas. Mais je vais le relancer. J'aimerais bien avoir mon trophée, ouais.
Est-ce que il se pose la question de dans quelle mesure on se rattache à cette victoire? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toute une équipe, mais c'est quand même la musique qui a été composée par une personne précise, interprétée par une personne précise, et qui d'une certaine manière est quand même plus à l'origine du projet, même si tout le monde est important, parce que sinon ça n'existerait pas sans les gens. Tu parlais du régisseur, etc. Mais c'est pas exactement, tu sais, quand même le même apport, parce que tu supportes quand même la musique de quelqu'un qui est pas ta musique à la base.
Ah oui, mais attends, là je suis pas d'accord. Si c'était pour la musique produite par l'artiste à la base, il aurait une victoire de la musique sur son album.
Je suis bien d'accord, mais justement,
si ça, c'est la tournée, enfin c'est le concert.
Je suis bien d'accord, mais justement, comment tu le vis, comment tu t'associes globalement, même au-delà de cette victoire en particulier, mais au-delà de cette victoire, à la réussite d'un artiste que t'accompagnes régulièrement? Est-ce que pour toi, t'es complètement dans le projet? Est-ce que tu sens qu'il y a une différence quand même?
Pour la victoire, pour moi, c'est aussi un peu ma victoire, c'est clair, surtout que j'ai une place extrêmement importante dans les spectacles de Ben depuis longtemps. Je suis clairement son bras droit, tu vois. tu vois, surtout l'aspect musical, on discute beaucoup, même des fois sur l'aspect du choix. Alors, il travaille avec un metteur en scène, il écrit beaucoup, mais c'est pas rare qu'il me demande mon avis ou que je le lui donne, même s'il me l'a pas demandé, sur certains détails et sur plein de trucs. Et je sais qu'il a confiance en moi. Et voilà, donc clairement, c'est aussi un peu ma victoire, comme celle de l'éclairagiste, comme celle du régisseur, comme celle de tout le monde. Mais c'est quand même l'artiste que les gens viennent voir. Ils viennent voir Ben Mazieu, ils viennent pas voir Robin Hood. Donc à un moment, quand tu commences à travailler avec des gens connus, et c'est ce que j'ai appris en commençant à travailler Corneille il y a très longtemps, c'est que il faut faire attention à ton ego et savoir rester à ta place. Ouais. Tu vois, moi je suis accompagnateur, je suis pas l'artiste. Donc si demain Ben il veut changer, il veut prendre quelqu'un d'autre, il prendra quelqu'un d'autre, il sera toujours Ben Mazieu, il cartonnera toujours, tu vois. Voilà. Donc moi je suis très content de cette place qui m'est attribuée de pianiste et directeur musical, même si le mot directeur musical pour le cas de Ben, je l'assume de moins en moins, tout simplement parce que on travaille clairement ensemble. Ben, il a énormément d'idées et moi, je l'aide à les mettre en place. Hein. Ouais, voilà.
Peut-être qu'on peut le dire. C'est quoi un directeur musical? Parce que c'est, dans la musique classique, par exemple, ça s'utilise, il me semble. Quand il y a des orchestres, des choses comme ça, je connaissais moins, j'avoue.
Alors non. En fait, si tu veux, par rapport au classique, dans le classique, c'est un chef d'orchestre, tu vois. Donc, directeur musical, c'est un peu l'équivalent moderne de chef d'orchestre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va s'occuper d'adapter des morceaux qui sont généralement enregistrés en studio au préalable à la scène.
Ouais. Donc ça, c'est ce que tu fais pour Ben Mazieu.
Moi, c'est ce que je fais pour Ben, c'est ce que j'ai fait pour Corneille, c'est ce que j'ai fait pour Kenza ou Doc Gineco, tu vois. Donc c'est de prendre des morceaux déjà existants et de les adapter en fonction de des contraintes que tu as. C'est-à-dire les contraintes, ça peut être par exemple, on dit bon bah vous pouvez être que trois sur scène. Mais sur l'album, c'est super produit. Donc
c'est-à-dire que ça va au-delà de l'aspect uniquement clavier-piano. C'est vraiment sur l'ensemble de la scène que là tu gères entre guillemets la façon
tu réarranges en fait. Du coup,
c'est ça. C'est de l'adaptation en fonction des contraintes. C'est aussi des propositions parfois d'enchaînement, parfois de tiens là on pourrait ouvrir, tu pourrais parler à cet endroit-là, machin. Alors je l'ai fait avec Kenza parce que Kenza elle arrivait sur scène en fait en gros elle avait jamais tourné donc elle connaissait rien à la scène. Donc c'était un peu le bébé, alors que Ben, lui, sait très bien ce qu'il veut, il faut juste l'aider à accoucher. Alors moi, je suis monsieur pragmatique, comme il m'appelle, c'est-à-dire que des fois, il a des idées qui sont absolument pas faisables, et donc
tu le ramènes sur terre.
Voilà, des fois, je lui dis non, mais à la fois, je cherche des solutions pour aller toujours dans son sens, parce qu'il a souvent de brillantes idées, et donc c'est ça qui est bien, c'est de se confronter à des idées, de se dire comment on va faire pour y arriver. Bon, des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. Dans ces cas-là, on abandonne. Mais voilà, c'est clairement un mec qui a énormément d'idées, et donc il y a aussi l'aspect tout technique, tu vois, dans la direction musicale, par exemple, t'as un morceau qui est super produit, mais t'es que deux sur scène, qu'est-ce que tu vas mettre dans l'ordi, qu'est-ce qu'on va jouer, qui va jouer quoi, comment on va faire que ça marche, ou est-ce qu'au contraire, on oublie toute la prod et on fait un truc très acoustique, c'est ce qu'on a fait avec Ben. Il y a beaucoup de morceaux qui sont que guitare ou piano-voix, alors qu'ils sont plus produits en studio. C'est vraiment deux univers complètement différents.
C'est
quoi.
Toi aussi qui va gérer un peu le setup, qui va demander, là on a besoin de telle machine, etc. Ou ça c'est plutôt...
Alors ouais, moi ouais. C'est moi qui fais ça, dans le cadre de Ben Mazieu et de Corneille aussi. Après, il y a un métier qui commence à arriver. Il y a des mecs qu'on appelle les Ableton Guys, là. C'est des mecs vraiment qui maîtrisent ce logiciel et qui s'occupent de faire tout le setup, notamment dans le rap. Parce que dans le rap, souvent, les mecs, t'as des rappeurs et puis on leur fait des prods et ils rappent dessus et ça s'arrête là. Et quand il s'agit d'arriver sur scène,
Faut habiller un peu le truc, quoi.
Soit il faut habiller un peu le truc, ou soit il faut que quelqu'un leur prépare tout pour qu'ils puissent rapper là, parler à tel endroit, que là, ils puissent parler sur de la musique, donc comment faire pour que la musique ou telle boucle tourne derrière, etc. Et ça, ces mecs-là, ils sont spécialisés là-dedans. Ils font pas forcément les tournées, ils font du setup, quoi, uniquement, tu vois, et c'est des gros killers d'Ableton, probablement beaucoup plus que moi. Moi, je sais m'en servir pour ce que j'en ai besoin sur scène, tu vois.
Mais voilà. Du coup, si on prend donc cette tournée de 120 dates, entre la première date et la 120e, est-ce que toi, t'as perçu une évolution aussi? Parce que j'imagine qu'il y a des alchimies qui se créent sur scène, machin, des trucs que tu fais à la 10e date. Je sais pas, moi, tu pars sur un solo avec un musicien et puis tu dis, ouais, ça a bien marché, faudrait qu'on le refasse, etc. Je veux dire, est-ce que c'est un truc qui est cadré et vous sortez pas trop du cadre, ou est-ce qu'au contraire, en fait, au fur et à mesure...
Alors, la tournée de Ben est extrêmement cadrée. C'est-à-dire que tout est écrit.
D'accord.
Et justement, le travail et l'évolution, l'énorme évolution de Ben par rapport à ça, ça a été de lâcher prise et de faire moins de littéraire, entre guillemets, c'est-à-dire ouais. des choses très écrites, et d'essayer de...
plus dans la vibe du moment.
Ouais, dans la, alors, c'est toujours les mêmes propos, mais ouais. pas de les dire de manière tout le temps strictement identique,
oui.
tu vois.
C'est genre Beyoncé qui pleure systématiquement au même morceau, quelle que soit la date, tu vois, c'est... Moi, c'est un truc où, justement, en tant que pur spectateur, tu sais, quand t'as vraiment le côté émotionnel avec l'artiste vraiment qui, t'as l'impression qu'il se livre et tu dis, ouais, mais attends, il s'est déjà livré 119 fois le Lascar, tu vois.
Bah, surtout si chaque soir est exactement similaire bah ouais. au précédent, parfois tu te dis, bon, c'est peut-être pas ça le live. Enfin, c'est pas ce qu'on attend d'un live non plus.
Quoi. Alors après, d'un autre côté, tu te dis, ah, ouais, mais le mec qui vient à la 18e ouais, date, il a autant le droit de vivre l'expérience que le premier, tu vois, mais je me dis, commence.
Ouais, c'est l'équilibre dans la part de mise en scène ouais. et en même temps de vivre le moment,
ouais, quoi, de spontanéité. Ouais,
non, mais ça, c'est la magie des, les gars. En fait, la magie, un magicien, il a des tricks.
Ouais.
Ben nous aussi, tout okay. bêtement. Donc après, bon, le côté américain, je pleure, machin. Ouais. Moi, c'est pas trop mon truc parce que c'est mielleux et tout ce qui est mielleux me fait un peu chier. Mais il y a quand même des moments clairement sur l'émotion. Il y a des moments sur l'humour. Et en l'occurrence, nous, on fait un spectacle avec Ben qui est presque de l'ordre du théâtre. En fait, il y a des parties théâtrales.
Ouais.
Et quand tu vas voir une pièce de théâtre, il y a très peu de place à l'impro. Il y en a parfois, mais globalement, une pièce de théâtre, c'est écrit.
Ouais.
Et donc là, c'est écrit. C'est juste que après, des fois, ils tentent des trucs et c'est ça qui a été cool. Et sur le spectacle précédent, c'était la même chose d'ailleurs. La V1, c'est pas la même que la V2, V3.
Ouais,
tu vois.
C'est-à-dire
que
il y a combien de V en fait ? C'est ça la question.
Bah en fait, c'est tout le temps la même trame.
Ouais.
Mais des fois, il va être bien, il va s'autoriser une petite punchline et puis ah tiens bah le public ça a bien marché, vas-y je la garde. Mmh. Et puis des fois il y avait des vannes qui étaient écrites, en fait on se rend compte qu'elles marchent pas de ouf, donc on les supprime.
Mmh.
Et au fur et à mesure t'affines pour aller vers quelque chose de plus en plus efficace.
Donc là tu vois si on reprend la timeline des 120 dates et qu'on fait un parallèle avec celle dans Dragon Ball Z, à quel moment le concert il est dans sa forme finale, tu vois, sur les 120? Est-ce qu'il faut quand même se taper la moitié?
En fait, ce qui est assez particulier, c'est que on a eu plusieurs phases. On a eu la phase théâtre parce que nous, en fait, la tournée de Ben là, c'était en assis parce que vu que c'est beaucoup parlé aussi, si t'es debout, les gens ils ont envie de s'ambiancer debout.
Ouais.
Ils ont envie de danser. Ils sont chauds. Ils ont pas envie d'écouter un mec parler ouais. sur le divorce, sur des trucs, même avec humour. Ils ont envie, tu vois.
Mmh.
Donc, on avait l'aspect théâtre et il y avait une certaine setlist et ensuite on a commencé les festivals et on a dû s'adapter.
Oui, parce que là
et donc on a changé la setlist et ouais. d'ailleurs il y a eu deux salles de festival, il y a eu l'été dernier où on a commencé avec le même spectacle. Le premier s'est passé nickel et le deuxième on s'est fait défoncer.
Ah ouais.
Bah ouais, parce que le premier on avait joué genre à 19h, il faisait encore jour, les gens étaient, il y avait eu qu'un concert avant, ils étaient pas trop chauds, pas trop bourrés. Après on a joué à genre 22h30 dans la nuit, les gens, il y avait eu 4 concerts avant, ils étaient bourrés, les pieds dans ouais. la boue. Et dès que Ben commençait à parler, c'était genre wouh, ouais, yo, tu sais, t'as envie de dire genre mais laisse-le parler, écoute.
Ouais.
Et après on s'est dit bah en fait non, il y a trop de blabla. Donc ouais. par rapport au spectacle de théâtre, on va devoir couper des parties
faire plus musical,
pour que ce soit plus musical, plus efficace au public et à la situation au festival. C'est de l'adaptation, quoi, tu vois.
C'est vrai que je pense pas même effectivement au setup de la salle, quoi. Est-ce que les gens sont debout? Est-ce qu'il y a une grosse fosse? Est-ce que
ça change tout.
Et c'est des debout, trucs que vous demandez vous, j'imagine, en disant moi je préfère faire genre salle playel, un truc chacun est assis tranquillement ou
Bah figure-toi que c'est la raison pour laquelle, mais c'est génial que ça se soit passé comme ça, qu'on s'est fait défoncer l'été dernier, c'est que Covid oblige, quand ils ont réouvert les festivals, les ouais. jauges étaient limitées et les gens devaient être assis. Et donc nous, on a, ce qui était mortel, c'est que comme on était en public assis, là où toutes les tournées se sont fait défoncer et ne jouaient plus, nous on a continué ouais. à jouer à mort parce qu'on était en public assis. Et donc les
Merci
festivals,
le Covid, bah,
ouais,
finalement,
ouais, quelque part. Et c'était prévu initialement donc que les gens soient assis. Et comme finalement ils étaient debout, bah on a été obligé de jouer devant les gens debout, tu vois.
Ouais.
Et la première date, laisse tomber, Ben, il était pétrifié dans un état de tension, mais c'était l'horreur. Et il était dégoûté vraiment que finalement, il se retrouve... Enfin, il se sentait pas les épaules d'assumer 5000 personnes debout et tout. Et donc, il avait peur, ce qu'on peut complètement comprendre, tu vois. Et au final, il est arrivé, on est tombé devant un public super bienveillant et tout, top. Donc, ça lui a fait énormément de bien, même à nous, parce qu'on s'est dit, bah, en fait, le spectacle, il marche. Sauf que la date d'après, on s'est fait manger. Et on s'est dit, bon, il marche... toute proportion gardée. Donc, il faut qu'on réadapte. Tu vois.
C'est marrant de se dire que l'artiste, s'il voit 5000 personnes assises ou 5000 personnes debout, pour lui, c'est, ça change tout. Alors
mais
que,
oui,
que,
ah, si.
Ça change tout pour quelqu'un qui n'est pas dans le truc. Tu dis, ouais, bah, c'est 5000 personnes, tu vois. Mais en fait, ouais, ça.
Au cinéma, est-ce que tu es debout pendant une heure et demie?
Ouais, j'avoue.
Eh ouais. Tu, si t'es debout, tu vas commencer à tourner en rond, enfin, tu vas être pas bien, tu vas avoir envie de bouger et tout. Quand t'es assis confortablement dans un fauteuil de centre culturel, qui est un fauteuil de type cinéma, t'es complètement en disposition d'écouter un mec en train de raconter des histoires.
Ouais.
Et du coup, c'est pour ça que Ben voulait ça, c'était que le spectacle, est complètement, on doit être dans ces dispositions pour écouter le spectacle. C'est pas un truc où tu viens t'ambiancer.
Donc c'était dans le cahier des charges de dire, nous on veut des salles où les mecs.
C'était une vraie demande de Ben et donc écouté par le tourneur qui a cherché des dates dans des lieux assis, tu vois.
Okay.
Mais ce qui a été cool, c'est que finalement, comme on s'est fait un peu manger, on a dû s'adapter et donc fort de ça, on a pu changer la setlist, repenser le show pour l'été d'après et les festivals qu'on a fait cet été qui sont tous super bien passés parce qu'on s'est réadapté grâce à cette expérience qui a été super enrichissante, quoi.
Et je me dis, est-ce que c'est parce que donc le tourneur a écouté le souhait de Ben Mazuet? Est-ce que du coup ça peut arriver que si t'as un artiste un peu plus confidentiel, le tourneur il dit bah tu sais comme, comme on avait avec avec JB Anak qui nous disait que eux ils se retrouvaient à jouer dans des salles éclatées, dans des pizzerias, dans des trucs comme ça, donc tu te dis, est-ce que si t'as un artiste avec moins de
est-ce que c'est un luxe de pouvoir choisir, quoi.
Est-ce que tu dis, je veux que les mecs soient assis et le tourneur il fait ouais bah là ils le seront pas et démerde-toi, tu vois, donc
non non, c'est un vrai luxe, c'est un vrai luxe. Mais c'est ce qui fait que le spectacle a fonctionné aussi, c'est que bah si tu mets les gens dans les bonnes dispositions, les choses ne peuvent que bien se passer. Si tu mets les gens dans de mauvaises dispositions, bon bah forcément ça se passe pas bien et donc ils sont pas contents et donc bah du coup il y a pas du bon bouche à oreille.
Ouais.
Ce qui fait qu'on a gagné la victoire de la musique, c'est bon, les gens ont voté pour nous, mais ce que j'ai remarqué avec Ben, c'est que depuis que je bosse avec lui, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus une première fois par curiosité et c'est merci à cela, ou qui connaissaient un peu Ben via les réseaux parce qu'il a jamais eu de single depuis, à part Quand je marche. Il n'a pas eu de morceau qui soit vraiment passé à la radio. Hein. C'est grâce à un peu à YouTube et puis surtout à des gens qui sont venus, qui ont kiffé, qui en ont parlé à 2-3 personnes, qui sont revenus, qui en ont parlé à 2-3 personnes, qui sont revenus, etc. Et c'est comme ça que le public a grossi progressivement. Mais c'est parce qu'aussi, ils étaient dans des bonnes dispositions, tu vois. Donc, ils ont assisté à un spectacle comme il fallait, qui a pu être joué comme il fallait. Et du coup, bah, quand tu vois les choses comme il faut, bah, ça se passe bien. Donc, tu as envie de revenir, etc.
Ok.
Mais, pardon, je
t'en prie,
je rebondis sur un truc. Pour ce qui est de, tu sais, du côté répétitif et tout. Moi, je suis toujours étonné des gens qui reviennent. Et il y en a qui sont venus 10-15 fois. On a même une nana qui vient de Grèce pour voir les concerts, pour te dire, quoi. C'est un truc de ouf. Stéphanie, coucou. En fait, je suis étonné des gens parce qu'il y a quand même un peu toujours les mêmes blagues au même endroit, les moments émotions au même endroit. Et les gens qui viennent plus de 4 fois, je suis toujours étonné parce que je me dis, bah, à un moment, tu connais le truc par cœur, quoi. Tu vois, il y a, comme il n'y a pas de place à l'impro, mais je sais pas. Les gens, ils reviennent.
Comme on regarde un film plusieurs fois parfois.
Est-ce que toi, sur 120 dates, t'attaques avec la même énergie toutes les dates, où il y en a certaines où tu dis, ouais, je vais jouer, enfin, tu sais, je serai à 60% parce que, bah, les couilles. Ou est-ce que vraiment t'essaies d'être à 100%, que tu sois dans une petite ville, une grande ville, une petite salle, une grande salle? Je veux dire, c'est le, moi, c'est un truc qui me fascine vraiment, savoir comment les musiciens abordent cet aspect-là. Principalement, effectivement, quand c'est des dates qui s'enchaînent comme ça, etc. Est-ce que tu te dis, moi, la question, c'est, est-ce que les musiciens qui font ça sur des grosses tournées, ils se rappellent de chaque date, tu vois? Est-ce qu'il y en a qui s'oublient complètement, ils se rappellent même plus avoir joué dans tel ou tel bled?
Alors, il y a deux questions différentes dans ce que tu dis. La première, c'est, est-ce qu'on aborde les concerts tout le temps de la même manière? Moi, clairement, oui.
Ouais.
Moi, mon but, c'est de faire un bon spectacle.
100%.
Je suis un bon professionnel, donc je suis payé pour faire ça. C'est quand même un job. Moi, ça me dérange énormément le côté artiste en France, le truc artiste. C'est un métier aussi, tu vois. Mm-hmm. Et donc, si tu vas voir ton boulanger, t'attends qu'il fasse un bon pain tous les jours, quoi. Même s'il a des états d'âme, des machins, tu t'en fous, en fait. C'est pas ton problème. Tu vas acheter ton pain, tu sais qu'il est bon d'habitude, tu veux qu'il soit bon tout le temps.
Tu te dis, ouais, mais là, il y a que des Stéphanie dans la salle, ils connaissent déjà le truc, ça va, je peux y aller à la tranquille.
Jamais de la vie. Non, c'est hyper important, ça doit être la magie tous les soirs, justement, ça doit être bien tout le temps.
Tout en acceptant que parfois, on peut être moins bon aussi.
Exactement. Mais, j'accepte d'être moins bon, Parce que ça fait partie du truc, on peut pas être bon tout le temps. Enfin, en tout cas, moi, ça m'arrive de mettre des pains et des trucs dont, heureusement, il y a que moi qui m'en rends compte ou les copains, mais pas les gens. J'ai jamais mis vraiment de gros pains, en tout cas pas sur cette tournée-là. La précédente ou celle d'avant, oui. Mais j'étais tout seul sur scène, c'était plus dur. Mais par contre, j'accepte pas le laisser aller. Tu vois, le côté bas les couilles, non, c'est, pour moi, si tu fais ça, c'est que tu manques de respect au public.
Aux gens qui viennent, ouais.
Et le public, sans lui, tu n'existes pas. Donc, il y a un moment, il faut avoir du respect pour les gens qui te font manger, qui te font exister même. C'est au-delà de manger. C'est-à-dire que sans le public, il n'y a pas de Ben Mazuet, donc il n'y a pas de Robin Note. Donc, il y a un moment, tu vois...
Vraiment carré...
Carré de ouf.
Ouais.
Carré de ouf. C'est pour ça que j'ai l'hygiène de vie que j'ai en tournée.
Précisément. C'est-à-dire que toi, on sait que tu as une hygiène de vie et que tu es exigeant envers toi-même, envers les autres, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates qui est identique pour tous les participants, ou est-ce qu'il y en a, enfin, en gros, est-ce que, au sein de la formation, même de temps en temps, vous dites pas, Jean-Mi, là, franchement, t'aurais pu, faire mieux, ou, genre, il y a des débriefs en mode, là, t'as fait n'importe quoi, machin.
Ouais, mais ça arrive.
Ouais.
Ça peut arriver qu'il y en a un qui se gaufre, mais c'est pas parce que,
Non, mais se gaufrer parce que le mec se prend les pieds dans le tapis, ça arrive, y a pas de problème. Mais par contre, constater, un manque d'investissement de la part
Non, ça, ce serait inadmissible. Moi, c'est complètement inadmissible.
Okay.
Moi, j'ai eu des, je l'ai jamais vécu, mais j'ai eu des retours de tournée où t'as un mec qui se biture la gueule, qui arrive en retard au répète, ou même sur scène, ou machin. Moi, c'est carton rouge, mec qui fait ça. Ce n'est pas admissible. Parce que c'est manque de respect par rapport à l'équipe, manque de respect par rapport, c'est pas professionnel, manque de respect par rapport au public, par rapport à tout. Enfin, tu vois, c'est, encore une fois, c'est un métier, et dans n'importe quel métier que tu fais, t'attends qu'on soit professionnel.
Ouais, mais il y a des fois, dans des métiers, bon, tu te dis, ouais, là, je suis un peu cuit, je vais être un peu moins efficace, quoi, tu vois.
Ouais, mais là, tu peux pas, en fait.
Et tu te dis peut-être que l'équipe, tu vois, c'est aussi ça, travailler en équipe.
Se faire porter par les
autres.
Ouais,
des fois, tu te dis, ok.
Non, mais le problème, c'est que personne peut jouer du piano à ma place. Donc à un moment, j'ai un piano voix à faire, je peux pas arriver à la cool et me dire vas-y, ouais, je mets 3 accords au lieu de 8, c'est pas grave, ça passera. Bah non, en fait, les gens ils connaissent les chansons et il faut que ce soit bien, tu vois.
Surtout Stéphanie, tu vois, s'il y a bien qu'un.
C'est vrai, c'est important.
Donc
pour Stéphanie.
Ça c'était la première réponse.
Ouais.
La deuxième question qu'il y avait, c'était est-ce que du coup tu te rappelles de toutes les dates ou est-ce qu'il y en a
Clairement non. Ouais. Il y a des quand tu fais ça.
C'est bien banal après, j'imagine.
Mais c'est même pas ça, c'est que encore une fois les gars, c'est un boulot. Est-ce que vous vous rappelez de tous vos jours
non.
de boulot vous
tout le temps, moi, systématiquement.
Donc,
je me rappelle de chaque émission.
En fait, ce qui est assez marrant avec la musique, c'est qu'on a tendance à mettre ça sur un piédestal et à voir ça
côté
comme un truc
artistique.
Absolument magique et tout. Ouais. Alors qu'en fait, c'est un métier avec toutes ces contingences d'organisation financière, etc. Comme n'importe quel boulot. Et donc, comme n'importe quel boulot, t'as des jours avec, t'as des jours sans, t'as des jours t'as pas envie d'aller sur scène. Moi, je te cache pas qu'avec 120 dates dans les pattes, les 4 dernières, ça a été dur. J'ai traîné la patte pour y aller.
Ouais.
Mais
alors que normalement, tu pourrais te dire c'est le contraire. Tu te dis c'est les 4 dernières, faut les terminer en apothéose. Et
ouais,
tout,
non, mais là j'en avais marre de partir de chez moi tout le temps. J'ai envie d'être chez moi enfin un peu, tu vois. Mais une fois que je suis arrivé sur place, bah déjà je me fais porter par l'équipe, je suis content de les retrouver et tout. Et puis après, surtout, je suis pas là. Enfin voilà, je dois faire mon boulot, donc je le fais. Et puis quand je suis sur scène, t'es porté par les gens, et là tu retrouves la magie du truc. C'est juste que des fois, au bout d'un moment, des fois t'as envie de rester chez toi, tu vois. Mais clairement, je me rappelle pas du tout de moi. Des fois, on me dit telle date et tout. Je fais quoi hein, on a joué dans telle ville. Des fois, je me rappelle même pas. Et encore que là, on a fait que des grandes villes. Mais dans les tournées précédentes, on jouait dans des presque grandes villes. Tu sais, c'est la ville qui est, tu sais, le patelin paumé, mais à côté de la grande ville. Tu sais, genre, tu joues à 10 km de Lyon.
Ouais.
Donc tu dis Lyon, mais en vrai, c'est pas Lyon.
Attends, Villeurbanne, grande ville.
Quelle grande ville,
je crois que c'est la 35e ville de France en termes de population, etc. Alors que c'est une banlieue, tu vois. C'est un truc
le fait que t'aies dû vérifier cette statistique-là me donne toutes les infos que j'ai besoin de
savoir. Non, mais tu sais que je crois que c'est la plus grande ville dans une agglomération comme ça, directement accolée à...
Avec un fleuve qui traverse et une autoroute qui entoure dans le classement des villes avec fleuve et autoroute.
Comme il m'embête. J'essaie de les convaincre que Lyon, c'est incroyable. Même Villeurbanne, c'est bien.
Ouais, j'adore Villeurbanne.
Les gars, on a fait un bon point, mine de rien, sur à la fois le côté accompagnateur, ta carrière d'artiste, la vie en tournée. Et ce qu'on va faire, c'est... On voulait faire une troisième partie pour parler un peu de l'enseignement aussi, quand même, parce que tu es professeur au conservatoire. Je pense que l'un des points les plus intéressants autour de l'enseignement, c'est le fait, comme on le disait au début, que tu as eu une mauvaise expérience toi au conservatoire et que tu te retrouves ainsi dans un conservatoire.
Une revanche, un peu, quelque part.
Pourquoi ? Et j'aimerais même dire, je pense qu'on peut le lier au fait, on échange parfois tous les deux,
c'est vrai.
Parce que t'es un auditeur régulier de l'émission. Parfois il y a des trucs qui t'énervent, parfois il y a des trucs que t'apprécies, etc. Et tu me le dis clairement.
J'espère que c'était les épisodes avec Chrono qui l'ont vénère.
Mais globalement tu apprécies l'émission, donc ça me va. Et parfois quand on parle effectivement d'enseignement musical, notamment dans un cadre un peu classique, type conservatoire, tu trouves qu'on est parfois dur sur le fait qu'on trouve ça un peu trop strict, etc. Est-ce que justement tu te retrouves au conservatoire aujourd'hui parce que tu penses qu'il y a quand même une marge de manœuvre et que toi, ce que tu as vécu, tu peux le faire différemment en travaillant dans un conservatoire aujourd'hui?
Complètement. Mais en fait, moi, j'essaie d'être le prof que j'aurais voulu avoir. Ouais. Donc voilà, en fait, le conservatoire souffre aujourd'hui de vieilles réputations qui sont en grande partie dépassées. Je dis en grande partie parce qu'il reste toujours 2-3 cons. Mais y a beaucoup de profs qui s'investissent énormément, qui proposent du contenu renouvelé, on cherche en permanence de tu vois, d'avoir une pédagogie créative, inventive, tu vois, pour qu'il se passe des choses. Et puis surtout, c'est fini l'époque où il y avait que le classique et tout. Hein. Maintenant, il y a jazz et musique actuelle. Tu peux très bien. En plus, il y a la MAO qui rentre aussi au conservatoire. Donc, on est très très loin d'une époque élitiste et tout ça. C'est terminé, ça. Enfin,
c'est vrai que ça se traîne encore cette image-là. Hein, de...
Mais ouais. Mais en fait, déjà, ouais, bon, on a le mot conservatoire.
Ouais. C'est le problème.
Et puis surtout, je pense que les conservatoires ne font pas assez le boulot d'expliquer ce qu'ils font. Donc, les gens, ils restent avec leurs vieilles idées,
l'image d'épinal du conservatoire.
Part qui reste. Alors peut-être que ça a évolué en 15 ans. Moi il y a 15 ans, j'étais dans une école à salle de musique, celle de Villeurbanne d'ailleurs. Et je peux te le dire parce que je l'ai vécu, c'est que il y avait le bâtiment principal et une annexe dans cette école. Et que le bâtiment principal était beau et que l'annexe était beaucoup moins, quasiment en sous-sol, quasiment jamais de fenêtres dans les salles, etc. Et qu'ils avaient foutu toutes les musiques amplifiées dans l'annexe. Soi-disant parce que ça faisait plus de bruit, alors ce qui est complètement faux parce que t'as des instruments acoustiques qui balancent aussi. Et franchement, il y avait un sentiment de gestion de la part de l'administration de l'école.
De musique de seconde zone, quoi.
Pas le même traitement, franchement. Et c'était il y a 15 ans.
Ouais, mais ce que tu dis, c'est vrai.
Ouais, c'était Villeurbanne.
Je vais pas.
C'est une école relativement importante. Le département musique amplifiée est relativement important.
Je vais pas le nier parce que c'est un truc que j'ai vécu moi-même en tant que prof au conservatoire où moi j'étais à la cave. Ouais. J'enseignais sur un piano numérique. Bon, j'avais 22-23 ans quand j'ai commencé à enseigner au conservatoire. Et les profs de classique, eux, ils étaient sur le piano à queue à l'étage avec la lumière du jour, tu vois. Et pour eux, c'était normal. Ouais, le jazz, ouais, c'est bon, tu peux faire sur un piano numérique, tu vois. Et ça m'a mis des années avant de comprendre que j'étais aussi un prof de piano comme tous les autres et que j'avais le droit à mon piano à queue et à ma fenêtre, tu vois. Donc, je me suis prouvé des choses entre-temps, ma carrière musicale a beaucoup évolué, j'ai eu des concours aussi, donc et puis j'ai eu des profs de classique qui avaient pas l'esprit fermé, qui sont venus même qui m'entendaient jouer dans ma salle, qui m'ont dit "Ah, putain, c'est terrible et tout ce que tu fais." Donc j'ai réussi à me prouver des choses et du coup à comprendre que certains fonctionnements étaient pas normaux.
Mais du coup ça t'a quand même mis dans un certain état d'esprit quand même de te retrouver ce qu'expliquait Salman, mis un petit peu sur le côté.
Bien sûr, mais en fait, les choses ont énormément évolué, je pense, ces derniers temps. C'est que les musiques actuelles ont pris de plus en plus de place dans les conservatoires parce que, on se rend compte que c'est tout un tas d'élèves qu'on n'a pas, nous, et ce serait bien qu'on les ait. Il y a plein d'associations qui ont développé tout ce qui est musique actuelle, et du coup, les autorités publiques ont commencé à se dire mais pourquoi ils viennent pas chez nous? Parce qu'on leur propose pas de contenu adapté, etc. Les conservatoires se sont ouverts vers les acteurs locaux. Par exemple, nous on a une salle de musique actuelle qui s'appelle les Cuisines sur Chelles parce que j'enseigne au conservatoire de Chelles et on travaille avec eux. Et donc de plus en plus les conservatoires créent des départements musique actuelle. Jazz, il y en a souvent déjà beaucoup mais ça continue à d'ouvrir. Et s'ouvre aussi sur les partenaires locaux et les contenus s'adaptent aussi. Donc il y a énormément d'évolution. On se rend compte que les enjeux sont pas du tout les mêmes. Ne serait-ce que jazz et musique actuelle, on n'attend pas du tout la même chose d'un musicien de jazz que d'un musicien de musique actuelle.
Et pour autant, toi tu coordonnes le département jazz musique actuelle.
Ouais, bien sûr.
C'est quoi comment les deux s'articulent?
En fait, on c'est les mêmes profs souvent, mais c'est pas les mêmes contenus. Ouais. Moi par exemple, si je vois un, je sais pas moi, un guitariste de rock et un guitariste de jazz, je vais pas attendre la même chose aux évaluations, tu vois, aux fins de cycle dont on parlait en début d'émission. Je vais pas attendre les mêmes choses.
Et comment tu vas transmettre aussi l'enseignement? T'attends pas la même chose aussi de la part du professeur ou pas?
Bah alors moi, c'est pas moi.
Mais ce que je veux dire par là, c'est ce que aussi tu fais un distinguo. Est-ce que l'approche pédagogique doit être différente en fonction de l'instrument et du style musical?
C'est une vaste question. Alors, à mon avis, les contenus, enfin les procédés pédagogiques qu'on va utiliser, ils sont nombreux. Et de toute façon, quel que soit le style musical, c'est pas le style musical qui importe, mais c'est l'élève.
Ouais,
okay. Il y a des élèves qui apprennent d'une certaine manière, d'autres d'une autre manière. C'est un peu comme à l'école finalement. Tu sais, t'as ceux qui ont la mémoire visuelle, d'autres ils ont besoin d'écrire pour retenir, d'autres ils mettent un truc en chanson, ils retiennent. Il faut s'adapter aux capacités des élèves. Donc c'est pas l'esthétique musicale qui change vraiment, tu vois. C'est surtout comment le gamin va apprendre. Après, t'as tout un panel de ficelles pédagogiques que j'ai envie de dire que tu vas utiliser ou pas en fonction des élèves, tu vois.
Okay. Mais toi, t'as sur la partie pédagogie précisément. Donc tu nous expliquais que ton expérience à toi en tant qu'élève s'est heurté à un prof qui faisait visiblement pas prof de pédagogie. Est-ce que vous avez une formation quand même? Est-ce qu'on vous briefe sur comment transmettre, comment, tu vois, ou est-ce que vraiment on vous dit, bah voilà, ça c'est la salle, ça c'est les élèves?
Alors, moi, j'ai un parcours particulier, c'est que j'ai commencé à enseigner en association très tôt, à 19 ans. Mmh. Et puis, vers 22 ans, j'ai rencontré, il y avait besoin d'un prof de piano jazz dans un conservatoire et du coup, j'ai postulé. Et j'ai eu la chance d'avoir une prof, d'une directrice qui m'a fait confiance. Parce que j'avais déjà fait un album, j'avais déjà une petite activité pédagogique et artistique en fait. Donc comme je composais, elle était attachée à ça, au côté créatif, donc elle m'a fait confiance et en fait j'ai appris mon métier sur le tas. J'ai fait des boulettes, j'ai des gens qui m'ont dit bah non là ça va pas, etc. J'ai beaucoup échangé, encore une fois je vais reciter mon copain Julien Dubois qui est un maître en pédagogie pour moi et on discute énormément. Et voilà, il m'a expliqué des trucs, on partage beaucoup et je fais de l'espionnage industriel aussi dans les autres conservatoires, je regarde leurs projets pédagogiques, etc. pour voir ce qu'eux, ils font. Je fais aussi beaucoup de jurys, on m'appelle pour faire des jurys dans des conservatoires, des CRR, des CRD, ce genre de trucs. Et je vois ce qui se fait, je vois ce que je peux transposer chez moi, ce qui me paraît pas du tout adapté au public qu'on a, donc voilà.
Je prenais un autre exemple d'ailleurs pour revenir parce que c'est du concret entre guillemets par rapport à l'ENM de Villeurbanne. Ces dernières années ça a évolué parce que depuis il y a eu un tout nouveau bâtiment et dans lequel sont à nouveau enfin réunis tous les départements, y compris le département musique amplifiée. Ils appellent pas ça musique actuelle, ils appellent ça musique amplifiée, ce que je trouve intéressant d'ailleurs. Et par contre, une grande différence, et je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, et tu vas me dire toi si tu l'observes aussi au conservatoire, c'est que tu me disais il y a des outils différents, c'est pas tant l'esthétique musicale qui va déterminer la façon dont on enseigne. Pour autant, je peux te dire que pour avoir eu des sœurs qui ont fait flûte traversière et violon et moi qui étais en guitare électrique, l'approche pédagogique était radicalement différente, avec un calqué complètement sur le système scolaire dans le cas de mes sœurs. D'ailleurs, elles ont arrêté, il y a pas de secret, et moi j'ai continué. Avec l'idée de bah tu redoubles, toi tu passes, il y a le bon élève dans la classe, machin, etc. Moi j'ai jamais vécu ça au département musique amplifiée. Donc il y avait quand même une culture qui est liée franchement à l'esthétique sonore, à l'instrument, des backgrounds des enseignants, etc. qui était radicalement différente.
Culture
franchement.
Académique en fait.
Je sais pas si ça, on le retrouve dans la plupart des conservatoires ou pas. Est-ce que
non, mais il y a toujours des profs qui sont attachés à ça, d'autres moins. Moi je suis attaché par exemple à ne pas brader les niveaux. C'est-à-dire que pour moi une fin de cycle c'est tel niveau, un élève qui n'a pas encore le niveau, je demande aux profs de ne pas les présenter parce que je veux pas qu'un élève soit en situation d'échec, par exemple. Je veux pas qu'un élève se vautre. Donc, s'il a pas encore le niveau, bah, il fait une année de plus, c'est pas grave, en fait. On n'est pas pressé à ce qu'il passe les niveaux. On veut qu'il se sente bien. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il se présente quand il est prêt. Et quand il est prêt, bon, bah, après, si tu veux, l'évaluation, ça devient juste une formalité.
Ouais.
Donc voilà. Après, il y a des profs qui disent non, au bout de 4 ans, il faut qu'il passe. S'il a pas réussi ça, machin. Bon bah voilà, ça existe toujours et ça existera toujours. Après effectivement, là où t'as raison, c'est que les enjeux sont considérablement différents en fonction des esthétiques aussi. Ouais. Donc forcément, on s'adapte. On va pas, encore une fois, on va pas attendre la même chose d'un guitariste de rock, un guitariste de jazz ou d'une flûtiste de classique. Donc forcément, les choses doivent s'adapter. Mais ça veut pas dire qu'elles sont complètement fermées pour autant. tu vois. Il y a aussi des profs qui sont très cool. Il y a plein d'élèves qui viennent kiffer, en fait, prendre leurs cours, aller à la musique de chambre pour le classique, aller en atelier de jazz, aller en groupe de rock, chanter, faire de la MAO. Une grande majorité d'élèves qui sont chez nous, qui sont heureux, tu vois.
Est-ce que toi, quand tu enseignes, le but, c'est l'élève que t'as en face de toi d'en faire un professionnel?
Non, pas du tout. Moi, j'enseigne dans un CRI. Donc, CRI, c'est conservatoire à rayonnement intercommunal. Ouais. OK? Donc, c'est clairement un public amateur. Ouais. Donc, moi, mon but en tant que professeur de jazz, c'est de former des musiciens autonomes. Moi, ce que je veux, mon but, c'est qu'ils aient plus besoin de moi, en fait. Quand ils ont plus besoin de moi, en tout cas, qu'ils arrivent à se débrouiller, à pouvoir jouer en groupe, en autonomie, avoir une activité amateur, moi, pour moi, c'est gagné. Tu vois. Alors après, j'ai quelques anciens élèves qui sont devenus professionnels aujourd'hui. J'en ai même qui sont dans mon équipe aujourd'hui, qui enseignent. Et ça me fait ma fierté. Là, j'en ai deux, trois encore actuellement, là, qui, je pense, ont du potentiel et ça me fait vraiment plaisir. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont devenir. Mais c'est pas l'essentiel, clairement, de mon public. Et c'est pas l'essentiel des publics des conservatoires de France. Ouais. Ça représente peut-être 5%. Et encore, je suis même pas sûr, peut-être 2% les professionnels, ceux qui vont devenir professionnels plus tard. En vrai, la plupart des gens, ils viennent pour s'ouvrir à la culture musicale.
Okay.
Apprendre à jouer d'un instrument. D'ailleurs, quand ils viennent en piano, ils viennent pas ni en jazz ni en classique. Ils connaissent que l'instrument, ils ont envie de faire du piano, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Mmh. Et voilà. Après, charge à nous de leur donner envie, de faire en sorte qu'ils prennent plaisir
et qui s'épanouissent
et qui développent une certaine curiosité aussi, tu vois. Moi, avoir des éternels élèves, ça m'emmerde profondément. Et j'ai souvent ça avec les adultes. Et le moins j'ai d'adultes, au mieux je me porte, honnêtement. Parce que souvent, les adultes en cours, ils arrivent et ils sont encore en situation d'élèves et ils peuvent rester 15 ans à attendre qu'on leur donne à manger. Mmh. Pour moi, j'ai des élèves que j'ai mis dehors, entre guillemets. Quand ça fait 8 ans que t'as le même élève et que ça fait 3 ans que ça tourne en rond, à un moment, t'es obligé de lui dire, mais écoute, ça fait 3 ans qu'on tourne en rond, t'as plus besoin de moi. Mmh. Donc, il faut que t'ailles voler de tes propres ailes. Il y a de la musique en dehors du conservatoire, trouve des gens avec lesquels jouer et fais de la musique. La musique, elle est pas que au conservatoire, elle est partout. Et donc, moi, c'est ça qui m'importe, c'est de former des musiciens qui puissent faire de la musique en dehors du conservatoire.
Ouais. T'as des petites remarques, toi,
question de l'enseignement? Je trouve ça super intéressant. C'est un aspect que moi, pareil, tu vois, conservatoire, comme la majorité des Français, je passe à côté en disant, ouais, ok, tu vois.
Mais c'est triste, c'est vraiment triste parce que il faut savoir un truc. Bon, je vais pas déblatérer 50 ans parce que je sais que le temps presse. Mais le conservatoire, c'est la meilleure offre pédagogique qui existe en France. Il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que c'est le moins cher. Parce que c'est au quotient familial, donc si tu touches rien, bah tu payes rien, enfin ou presque rien. C'est vraiment des bouchées de pain. T'as un enseignement extrêmement performant, extrêmement complet. Donc tu peux avoir des cours de formation musicale. C'est tout l'aspect théorique, on va dire. T'as des cours d'instruments, t'as de la pratique collective et tu peux même multiplier les expériences musicales. Et si t'as des conservatoires où il y a musique, danse, théâtre, tu peux même avoir des expériences transversales. Nous, on a des vraies salles de concert. Moi, j'ai des gamins, ils jouent dans des vraies salles de concert avec un régisseur, un ingénieur du son et tout machin, tu vois. Tu joues dans des conditions monstrueuses. En général, t'as quand même des conditions aussi, t'as des bons instruments. On peut te louer des instruments si t'as pas d'argent pour en acheter, bah, ils peuvent te louer pour un tarif complètement dérisoire. C'est la meilleure offre qu'il y a. Alors après, effectivement, bon, bah, ça demande aussi un investissement. Mais comme n'importe quelle activité, je veux dire.
Et de tomber sur le bon professeur aussi.
Oui, ça, c'est sûr. Mais
psy, il faut bien le choisir.
Bah, le truc, c'est que moi, j'ai des élèves qui, cette année, là, j'en ai deux. C'est un désastre. Ils en branlent pas une, tu vois. j'ai beau être le meilleur professeur que je puisse essayer d'être. S'ils foutent rien, s'ils font pas leur part du travail, bah, ça peut pas faire de miracle, tu vois. Donc, il y a un moment, faut pas tout mettre sur le dos du conservatoire non plus. Si les élèves bossent pas, il y a pas de résultat. Et c'est pareil dans les études, dans le sport, dans tout, en fait, tu vois. Donc, voilà. Des fois, il y a des gens qui disent, ouais, le conservatoire, mais est-ce que t'as bossé? Tu vois, pose-toi la question. Est-ce que t'as fait ta part du boulot aussi?
Après, c'est peut-être aussi la vision qu'on en a. Enfin, dans le sens où, moi, j'ai pas de problème avec un ado qui a pas envie de bosser son instrument, par exemple. Mais c'est juste lui dire, en théorie, t'es ici et tu payes pour évoluer avec ton instrument. Si t'as juste envie de te faire plaisir dans ta chambre et de continuer à stagner, mais parce que ça te fait du bien, fais-le. Enfin, il faut aussi valoriser ça et rappeler que la musique, moi je trouve en tout cas que ça devrait être juste du quotidien avec quelqu'un de pas bon. et qui sort sa gratte une fois toutes les deux semaines, et c'est pas grave, c'est cool, tu vois.
Ah,
il faut le valoriser
ça,
aussi.
Ça, c'est
mais,
pas un problème.
Mais à ce moment-là, il devrait pas être au conservatoire, effectivement.
Et il faut savoir que le conservatoire, c'est un service public.
Ouais.
Et donc, ça s'adresse à tous les gens de la collectivité et qu'il y a des listes d'attente. Mmh. Donc, à un moment, nous, on forme des élèves pour qu'ils progressent. Si t'as un élève, exactement, si t'as un élève qui vient et qui, en plus, soit qui s'en fout, ça l'intéresse pas, machin, il y a peut-être un mec derrière lui qui a faim, qui a envie de progresser, qui attend cette place et qui l'a pas à cause de lui. Donc, il a rien à faire là. Et moi, ça me pose aucun problème de dire, bon, bah, mec, ta place, elle est pas là parce que tu joues pas le jeu. Si t'as pas envie de jouer le jeu, bah, reste chez toi, en fait. Et c'est ce que j'ai fait moi, d'ailleurs, au conservatoire. C'est-à-dire que moi, ça marchait pas avec ce prof. J'ai décidé de pas jouer le jeu et de partir et d'apprendre par moi-même à ma manière, tu vois. C'est aussi, c'est des choses
Ça demande du recul quand même aussi sur ses propres compétences, tu vois. C'est peut-être pas donné à tout le monde.
Qu'un truc de compétences, c'est un truc d'attitude. Moi, les deux élèves dont je te parle, ils sont tous les deux super doués. Ça pourrait être tous les deux des tueurs. Mais ils sont en pleine adolescente, ils foutent rien, ils arrivent en retard au cours, ils s'en branlent complètement, tu vois.
C'est des ados.
Même les parents sont désespérés parce que c'est aussi le problème à l'école. Mais voilà, c'est des ados.
Ils ont peut-être pas trouvé leur truc encore, peut-être.
Ouais, mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Et d'ailleurs, je les ai toujours cette année. Et après de nombreux échanges avec les parents, j'ai décidé de, on tient bon. Et on essaye de faire en sorte que ça marche. Pour l'instant, bon. Ça marche pas trop, mais c'est pas grave. On essaye. Et puis au bout d'un moment, il faudra leur dire, les gars, vous avez pas joué le jeu. Moi, j'en ai qui attendent derrière. Ouais, il faut qu'ils aient la place. C'est normal. Mais on dégage pas les élèves au bout de 6 mois ou 2 semaines parce qu'ils bossent pas ou parce qu'ils sont pas doués. Moi, j'ai eu un élève qui était vraiment pas doué du tout pendant des années. Et il bossait autant qu'il pouvait. Il était juste pas doué, mais c'est pas de sa faute, tu vois. Il bossait. Ça pose pas de problème, tu vois. C'est pas forcément une question de compétence,
de niveau,
qu'une histoire d'attitude et d'investissement dans la discipline, tu vois.
C'est beau quand même.
C'est très beau. On va terminer.
Tu peux être nul en faisant. Mais si t'es motivé.
C'est le plus important.
Le travail, c'est la vie, les gars. C'est le secret, en fait. Le talent, ça suffit pas. Moi, j'ai rencontré trop de gens talentueux qui ont rien foutu, qui ont rien donné. Je connais des gens beaucoup moins talentueux qui ont charbonné et qui ont donné vraiment des trucs, quoi.
Cristiano Ronaldo versus.
Le travail. C'est versus Neymar
ou Ronaldinho, tu vois.
Ouais, oui, encore Neymar encore, ça
un
va.
Talent, un talent brut et un autre gars qui travaille, en fait.
Après, le talentueux un peu branleur peut avoir un charme aussi, quoi.
Oui, surtout dans la musique, c'est toujours la bohème, tu vois.
Ouais. Est-ce qu'on terminerait pas avec nos fameuses recommandations? C'est une nouvelle un peu, c'est quoi, c'est devenu quoi, une
troisième fois, je pense,
un petit peu comme ça. C'est un nouveau gimmick dans le podcast. On essaie de terminer à chaque fois en écoutant un petit extrait d'un morceau qu'on a écouté ces derniers temps. On demande ça aussi à l'invité. Robin, qu'est-ce que t'as envie de nous faire écouter, découvrir ça à nos auditeurs?
Ouais, pour moi, choisir, c'est renoncer. Donc, c'est toujours difficile de faire un choix. Mais comme on a parlé de lui, que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et à qui je dois beaucoup. Et puis, ça fait partie du type de musique que j'écoute en tournée pour me détendre et qui me met bien. En fait, je suis en ce moment en mode piano droit sourdine complètement dépouillé.
Okay.
Avec des artistes comme Olafur Arnalds, que j'aime beaucoup. Mais il y a Anya Rani. Enfin, bon, il y en a tout un tas. Mais j'ai choisi un petit français.
Ouais.
Qui est donc mon ami Guillaume Poncelet.
Ok.
Avec un morceau qui s'appelle Morning Roots, que je trouve d'une beauté saisissante et que je pourrais écouter en boucle. D'ailleurs, j'ai appris son morceau, je sais le jouer, probablement moins bien que lui, mais et voilà, j'ai toujours plaisir à écouter et à jouer ce truc.
Et ben, on s'écoute un extrait. C'est une musique qui mériterait qu'on y reste longtemps. J'avance un tout petit peu pour qu'on ait une idée. Avec on peut pas mais c'est des extraits trop longs, malheureusement, par rapport au droit.
C'est ça?
Ouais. Mais ça vous donne une idée.
Il faut que les gens aillent écouter ce truc.
Très bien.
Au moins, ce morceau, avec un casque allongé, détendu, vous allez voir, ça fait partir. Et puis, le son du piano droit sourdine, c'est un autre délire que le piano normal. C'est vraiment, tu vois, il y a le son feutré, on entend le son des marteaux et tout. C'est vraiment magnifique, quoi.
C'est sur l'album 88 de Guillaume Poncelet, Morning Roots.
Tout à fait.
Daz, qu'est-ce que t'as envie de nous faire découvrir, toi?
Ouais, moi, dans un autre registre.
Ouais.
Moi, comme toujours, j'écoute beaucoup de Currency. Currency, c'est un de mes artistes préférés.
Ouais.
C'est un rappeur de la Nouvelle-Orléans qui est passé avec Cash Money, donc qui était chez No Limit avec Master P, qui est passé chez Cash Money avec Lil Wayne, Drake, etc. Et puis qui a décidé à un moment donné de dire, rester dans votre délire, mais en fait, je fais du son pour kiffer.
Ok.
Et c'est, à mon sens, un des artistes qui choisit le mieux ses instrus. Donc là, le morceau, il s'appelle 100 Spokes. Bon, ça parle toujours de bagnole et de fumette. Hein.
Ah. Après, mais c'est des bons thèmes, en vrai.
Ouais, c'est un thème universel.
Non, en plus, la bagnole, j'en ai tellement rien à faire. Mais la fumette, ça inspire.
Oui, mais non, mais vraiment. Voilà, le mec se fait plaisir. Il choisit toujours des instrus.
Okay.
Là, en l'occurrence, il y a une basse qui est pas dégueulasse.
Eh ben, écoute.
J'aime beaucoup cet artiste. Écoutez.
On teste ça?
Allez, hop. Là, la basse va rentrer. Donc voilà, il laisse la musique respirer.
Yes, j'avance un poil pour qu'on découvre.
Est-ce que t'as checké Robert Glasper?
Robert Glasper?
Ouais.
Non.
Donc c'est ambiance-là? Écoute Black Radio de Robert Glasper. C'est un pianiste de jazz qui bosse avec des rappeurs.
Ouais.
Là, je pense ça parce qu'il y a que des accords mineurs dans ce qu'on est en train d'écouter.
Ouais.
Et c'est tout à fait le genre de truc que fait Glasper.
Je le note.
Et du coup, ça pourrait te faire kiffer
et te sortir
de ton rap des années 90.
C'est faux, en plus. Ça, c'est récent.
Bon,
c'est
en cas, récent. Très smooth, très cool. Currency, 100 Spokes.
Et alors toi, alors Salman, vas-y.
Eh bien, écoute, j'ai choisi un morceau que j'ai découvert, je sais pas, il y a une semaine, un truc comme ça. Je vous recommande le clip, d'ailleurs, c'est très très bien. C'est du Baby Solo. Baby Solo, c'est une meuf qui doit avoir 18 ans maintenant et elle a déjà plusieurs années derrière elle. Et elle fait une espèce de... je sais même pas comment dire ça. C'est à la fois il y a un côté hyper pop, il y a un côté électronique, il y a aussi des codes rap, gros mélange, très actuel en fait, très vraiment. Je trouve ça.
Moi j'ai pas encore compris ce que c'était que l'hyper pop. Faudra me.
C'est vrai. Et ben, écoute, j'ai fait une vidéo sur l'hyper pop. Je t'enverrai le lien.
Parfait.
Hyper pop. Et c'est parti. C'est Baby Solo, le son de princesse.
Bon. Oh.
C'est très girly en fait, mais avec plein. Enfin, c'est, je trouve ça très intéressant d'ailleurs.
Ça démarre comme du PNL. Non, c'est pas vrai. Ah ouais. C'est Crazy Frog en fait.
Non. Elle a 8 ans.
Quoi ça ressemble.
J'aime bien la prod.
Ouais.
La prod est trop bien. En fait, ce qui est très cool, c'est que t'as à la fois un truc très girly, très enfantin dans la voix, et en même temps, il y a un truc à la fois, tu vois, de, on est des meufs qui décident, qui décideront aussi, tu vois, de notre destin, ce qu'on veut, on met de côté les mecs, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des sous. Et justement, ils reprennent aussi, parfois, ça peut être un peu vulgaire, des codes un peu plus urbains, etc.
Mm-hmm.
Tu vois, un mélange comme ça qui, je trouve, donne une identité assez cool. Voilà.
Bah, c'est très en vogue, ça, dans
absolument.
les thèmes actuels, je trouve.
Absolument. Le re-empowerment.
Tout à fait. Non, mais c'est pour ça que c'est une musique complètement actuelle, y compris dans son esthétique sonore, etc. Et globalement, ce que fait Baby Solo, c'est très très cool. Et j'en profite parce que je sais que c'est une de ses références.
Han Solo?
C'est Han Solo. Non, pas du tout.
Depuis tout à l'heure, j'ai envie de la faire. Genre,
Baby Solo,
la fille de Han Solo.
Non, absolument pas. Et une de ses références, c'est Yung Lin. Et j'adore Yung Lin, et donc je me suis repenché aussi sur Yung Lin récemment, notamment l'album Stars. Je vais pas mettre un extrait, mais très très bien Yung Lin, j'adore ça.
Ce sera pour la prochaine.
Yes.
Allez.
Bon Robin, merci beaucoup d'être venu
merci
nous voir.
Merci à vous les gars, très cool, désolé d'avoir été aussi bavard.
Non,
le pire c'est qu'il y a plein de trucs que j'ai pas dit.
Mais
tu
je
vois
sais bien.
Et
mais...
je me dis putain, j'ai pas parlé de ça.
L'esprit d'escalier.
C'est le destin, hein. C'est comme ça, à chaque émission.
Mais voilà. Avec grand plaisir les gars.
Étant donné qu'on propose ça à presque chaque invité, qu'on a eu pas loin d'une trentaine d'invités, ben un jour on finira par faire une émission à 100 personnes où chacun reviendra parler. Je sais pas comment ça se dit. On fera 5 heures, un marathon, ça fera plaisir à Daz, il aime les contenus longs.
5 heures, 100 personnes, je doute. Hein. À mon avis, c'est plus autour de la cinquantaine d'heures là qu'il va
c'est
falloir.
Vrai. Ouais. Écoute, on fera une semaine.
Un gros débat avec beaucoup. Tu fais des petits groupes de parole.
Potentiellement, ouais, avec un rapporteur, tu sais, qui vient synthétiser les discussions, etc. Bon, on va réfléchir à un concept comme ça. En tout cas, un grand merci à la bouclette. Pour toute la technique qui nous accueille à chaque fois. Merci Daz.
Merci Salman.
Merci François aussi pour le montage, évidemment.
Merci Robin, bien sûr.
Merci
Robin
Daz, merci Salman.
Allez
Paname
écouter.
Musique.
Ouais.
Paname Panique.
Paname Musique. Mais c'est aussi de la musique de Paname.
Paname Panique, excuse-moi.
Tout à fait, vous le retrouvez
carton
aussi.
Carton rouge,
justement.
Robin, si on veut découvrir un peu plus ce que tu fais, t'as ton site qui est assez complet quand même.
J'ai un site, Robin-note.com, je crois.
Ouais.
Voilà.
Puis sur les réseaux, Robin Note, Insta notamment, voilà. On te trouve.
Insta façon. Où je suis plus actif. Ouais. Sinon, Facebook éventuellement, que je délaisse de plus en plus.
Comme
de
tous.
T'as bien raison.
Voilà.
Et puis un grand merci évidemment à Thomann, sans qui cette émission n'existerait pas.
Dont je suis un fidèle client.
En même temps, quel musicien n'est pas un fidèle client de Thomann ? C'est pour ça que franchement, ça fait plaisir de pouvoir faire une émission comme celle-là et de pouvoir la faire grâce à un partenaire comme Thomann, parce que tu vois, ce serait total, ça serait moins cool quand même.
Autre ambiance.
C'est pas autre ambiance.
Bref, à bientôt tout le monde. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao.
Ciao.
Salut.